Ah, à toi, Philippe. Voilà. Je t'ai pas présenté, hein, tu te débrouilles.
De toute façon, je vois qu'il est déjà 7h30. Et le contrat qu'on avait signé, c'était de 7h à 7h30. Alors, d'une part, comme je suis contre le travail, je pense que je vais partir tout de suite. D'autre part, il y a mon hélicoptère qui m'attend parce que je suis un adepte du double discours. Donc, je suis attendu à Davos où, précisément, j'ai un contrat de 200 000 euros à honorer. Donc, bonsoir et merci beaucoup. C'est très sympa. Bon, tout ça pour vous dire que... déjà, je ne vais pas commencer par définir le travail, bien que ce soit une université. Donc, on ne va pas essayer de se dire est-ce que c'est du travail bénévole, du travail payant, est-ce que le travail, etc. On ne va pas parler de ça. Donc, je vais commencer vite fait par me présenter, mais très, 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 très vite. Donc, je m'appelle Philippe Godard. Voilà. Je suis l'auteur de trois bouquins sur le travail. Non, quatre. Il y en a un que j'ai déjà plus qui s'appelle Contre le travail, là, qui est parti. Il y en a un autre qui s'appelle Au travail les enfants. Un autre qui s'appelle La volonté de paresse, où je suis un des co-auteurs, enfin on est plusieurs. Il y a Raoul Van Eghem, Paul Lafargue, enfin ça fait longtemps qu'il est mort, on lui a pas demandé son avis, mais il était d'accord quand même pour qu'on publie son droit à la paresse. Et puis j'ai écrit un bouquin il n'y a pas tellement longtemps, Contre le tyran président. Donc, il s'appelle « Qu'y a-t-il derrière valeur travail et identité nationale ?» où ça parle là aussi du travail. Voilà. Je ne sais pas si je suis un spécialiste du travail. En tout cas, je ne veux surtout pas être un spécialiste du travail. Je me revendique absolument pas comme un spécialiste du travail. Je ne suis jamais que quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille trop, comme je pense beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a énormément de gens en France qui pensent qu'ils travaillent trop, ne serait-ce que pour une seule raison, c'est qu'ils souffrent au travail, parce qu'il y a plein de choses qui nous font souffrir. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait essayer de réfléchir au travail pour voir comment en sortir. Donc, c'est une réflexion que j'ai entamée il y a très très longtemps, parce que, là j'ai 50 ans, quand j'avais 19 ans, la solution que j'avais trouvée c'était le vol. Donc pendant un an un peu plus, j'ai vécu du produit de mes vols. Enfin, c'est d'ailleurs la première phrase de mon bouquin « Contre le travail », ce qui m'a posé d'ailleurs beaucoup de questions, parce que comme on a deux enfants, donc je me suis demandé qu'est-ce que mes enfants allaient penser quand ils liraient le bouquin. Enfin, cela dit, j'assume. Donc pendant un an et demi, j'ai volé. Donc je n'ai volé que des riches. Mais enfin, ça empêche que j'ai quand même volé. Et puis, j'ai quand même réfléchi et je me suis aperçu que finalement, voler, ça ne servait pas à grand-chose. Parce que quand on vole, on ne fait jamais que d'essayer de reproduire le système à sa propre échelle. C'est-à-dire que je pense que ce système, le système dans lequel on vit, c'est un système qui est fondé sur le vol, d'une certaine façon, en tout cas sur le parasitisme. Et il y a du parasitisme à tous les étages, enfin, et notamment, pour prendre un parasitisme qui me semble totalement évident, le parasitisme des pays prétendument développés sur les pays pauvres, et spécialement les pays colonisés ou ex-colonisés. Alors... au bout d'un an et demi, j'ai arrêté de voler pour tout un tas de raisons. Enfin, tout simplement parce que je pensais que c'était pas le bon truc. Donc, je me suis orienté vers d'autres choses, et en l'occurrence, la débrouille avec des petits boulots, quelque chose de pas particulièrement original ni pas forcément très intéressant d'ailleurs, parce que finalement c'est toujours un peu pareil. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé tout un tas de choses, et notamment le fait d'avoir des enfants, ça je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, je me suis dit qu'il fallait quand même, il y avait quelque chose à voir à moyen terme ou à long terme, et donc il devenait essentiel de s'adresser aux enfants pour les faire réfléchir. C'est pour ça que je dirige plusieurs collections de documentaires pour la jeunesse. Donc j'en ai créé une chez Autrement, qui s'appelle Junior Histoire. J'en ai créé une chez La Martinière, qui s'appelle Enfants d'ailleurs. Et puis j'en dirige une chez Syros, qui s'appelle J'accuse. J'en ai créé une qui s'appelle Femme. Et puis en fait, j'en ai aussi créé une toujours chez Syros, qui s'appelle Documents. Les documents, s'agit, parce que c'est sans doute celle-là la plus intéressante par rapport à la, à ce soir. Dans les documents, il s'agit de prendre des discours d'hommes ou de femmes. Enfin, pour le moment, il y a eu que des hommes, parce que, enfin bon, ça c'est pour des raisons éditoriales. Enfin bon, ça, c'est pas très intéressant, donc autant pas en parler. En tout cas, pour le moment, il y a eu un bouquin sur Malcolm X, un bouquin sur Guevara, un bouquin sur Gandhi, un bouquin sur mai 68, et le prochain sera sur le terrorisme. Et l'idée là-dedans, c'est de prendre des discours qui fassent réfléchir les jeunes. Mais les jeunes, il y a tout un tas de choses qu'ils savent pas, pour tout un tas de raisons, parce que, par exemple, si vous voulez comprendre les discours de Malcolm X, il faut les replacer dans le contexte, et vu ce que les jeunes apprennent au collège et au lycée, ça va être extrêmement difficile. Donc si on ne veut pas faire du bouquin élitiste, il faut leur donner, enfin ce que je cherche surtout pas à faire, c'est surtout pas des trucs élitistes, il faut replacer les discours dans le contexte, et donc le but de ces collections jeunesse, c'est précisément de donner des discours qui ne sont pas forcément simples, qui font réellement cogiter, qui sont utiles pour le monde d'aujourd'hui, mais de les replacer dans le contexte précisément pour qu'un jeune de 15-16 ans ou 18 ans ou même de 50 ans ou même de 60 ans, en tout cas un jeune, donc quelqu'un qui veut réfléchir et puis qui, pour lequel le monde n'est pas fini et pas foutu, on ne va pas se pendre en sortant de l'université des bistrots ou demain matin en retournant au boulot, eh bien... prendre ces discours pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la dynamite en fait, et puis réellement arriver à réfléchir. Alors ça, c'est un aspect de mon travail, je dis bien le mot travail, hein, bien que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Contre le travail », et puis l'autre aspect, c'est les bouquins politiques, où là c'est un autre type de réflexion qui s'adresse là essentiellement à des adultes ou alors à des jeunes qui ont déjà commencé sérieusement à réfléchir. Bon, c'est de plus en plus difficile de parler du travail, parce que quand le premier bouquin que j'ai écrit, duquel j'ai pas parlé d'ailleurs, ça s'appelle « Contre le travail des enfants », ça datait de 2001. C'est chez un petit éditeur strasbourgeois qui s'appelle Desmarais. Le bouquin a disparu. Le seul endroit où on peut en trouver, c'est Amazon. Moi, je suis contre Amazon, personnellement, mais il n'empêche que c'est le seul endroit où on peut encore en trouver, parce que je pense qu'ils ont dû en acheter 5 ou 6, et puis ils n'ont toujours pas vendu. Donc, voilà. En tout cas, l'éditeur, lui, a disparu dans la nature, donc il n'y en a plus. Et en 2000, je sais pas combien, 2005, mettons, enfin peu importe, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Contre le travail ». En fait, entre 2005 et 2009... il s'est passé un certain nombre d'événements, dont un, il y en a au moins un, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est en 2007, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui a été élu, et c'est assez étonnant, parce que je dois dire que moi, pour le coup, je n'avais pas prévu ça. Il a été élu, entre autres, sur son histoire de valeur travail. Alors, et puis en plus, depuis que Sarkozy a été élu, il s'est passé un autre événement, enfin, sauf que là, c'est pas tout à fait un événement qui est datable précisément dans le temps. Enfin bref, en tout cas, c'est la crise, et là, on est en train de nous... Alors là, on nous bourre le mou comme c'est pas possible. Il y a déjà Al Gore qui avait commencé avec son capitalisme vert pour sauver la planète, mais en tout cas, il faut travailler pour permettre à Al Gore de prendre l'avion et d'aller à Davos ou à Kyoto. Mais là, maintenant, ça devient bien pire, puisque maintenant, on nous dit qu'on va plus avoir de travail, donc on va plus avoir d'argent, ça va être la crise, on va être mis à la porte de nos maisons comme les Américains avec la crise des subprimes, etc. Bon, donc ça devient assez difficile de parler du travail, je trouve, parce que tout simplement le travail semble être la valeur refuge ou la valeur suprême, puisque si on travaille pas, on n'a pas d'argent. Hein, comme disait Coluche, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas du travail, de l'argent leur suffirait. Oui, mais précisément. Non, mais c'est une parole très profonde en réalité, mais précisément, le meilleur moyen d'obtenir de l'argent, c'est bien de travailler, à part l'expérience du vol. Et pour le moment, à dire vrai, je ne vous le conseille pas, mais enfin bon, parce que je pense que c'est pas évident. Ou alors si vous êtes à Davos, là vous pouvez voler, là il n'y a pas de problème. Là, à Davos, bon. Alors, c'est difficile de parler du travail parce que y a tout un tas de questions qui vont affluer, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de parler longtemps, donc comme ça, vous pourrez faire affluer les questions et je tâcherai pas forcément d'y répondre, mais enfin, en tout cas, de donner mon avis dessus. Mais j'ai pas des réponses à tout, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, le premier truc par lequel je voulais commencer, c'est dans le discours de Sarkozy. Quand il dit, parce que c'était quand même dans sa profession de foi, il a dit que les Français étaient ceux qui travaillaient le moins en Europe. Alors, moi j'ai toujours été, alors ça depuis très longtemps, hein, depuis que j'ai 15 ans, je crois, enfin depuis que j'ai vraiment commencé à faire de la politique, donc ça fait à peu près 35 ans maintenant, j'ai toujours été partisan de jamais chercher mes sources dans les discours de mes potes, mais plutôt dans le discours de l'adversaire. Parce que si on va chercher dans le discours de nos potes, c'est facile. Donc vous avez des gens, ils font des discours, puis ils disent « Ah ouais, j'ai lu dans le monde diplomatique, etc. » Donc là, je pourrais vous raconter un tas de trucs assez rigolos. Bon, et puis si on regarde, il y a des choses qui sont justes, et puis il y en a d'autres qui sont fausses. Donc j'ai toujours été partisan de chercher, de trouver plutôt, parce que chercher, ça ne sert à rien, ce qui compte, c'est de trouver mes arguments chez l'adversaire, donc la Banque mondiale, le FMI, et là, en l'occurrence, pour cette histoire de valeur travail, j'ai commencé par chercher à l'OCDE. Parce que si j'avais cherché chez les gens desquels je me sentirais éventuellement plus proche, là je pense à Alternative Économique. Alternative Économique, il y a un dénommé Denis Clerc qui, si je ne me trompe pas, doit toujours être le directeur ou le rédacteur en chef. Et Denis Clerc a dit que Sarkozy, il avait raison, que les Français, c'était effectivement ceux qui travaillaient le moins en Europe. Donc, je vais prendre mon bouquin parce que je ne connais pas les chiffres par cœur. Donc, je suis allé à l'OCDE. Alors, il y a l'adresse du site internet, hein, mais enfin, c'est tout à fait valable. Et j'ai regardé si les Français, c'est ceux qui travaillaient le moins en Europe. En fait, les Français, donc d'après l'OCDE, hein, pas d'après Denis Clerc ou d'après, ils ont travaillé 1546 heures en 2005. Donc ce bouquin est sorti en 2000, tout début 2008, c'était les derniers chiffres disponibles. Mais de toute façon, ça c'est toujours valable. Donc les Français travaillaient 1546 heures par an. Les Grands-Bretons, ils travaillaient 1672 heures, pardon, donc ils travaillaient 130 heures de plus que nous, donc effectivement les Anglais travaillent plus que nous. Mais les Allemands, surprise, ils travaillent 1437 heures, donc ça fait quand même 110 heures de moins que nous. Les Pays-Bas, 1367, et puis la Norvège, alors là ils foutent vraiment rien du tout, ils travaillent que 1360 heures par an. Alors là je me suis dit, je suis pas sociologue, je suis pas spécialiste du travail, etc. Je me suis dit, bon, finalement, Sarkozy, il a peut-être raison. Parce que peut-être que les Français, ils travaillent 1546 heures, mais comme ils foutent rien, au travail, ils glandent, ils font autre chose, ils vont aux toilettes, etc. Vous savez que chez Toyota, par exemple, ils comptent le temps qu'un employé doit mettre pour aller aux toilettes. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, je me suis dit qu'il fallait peut-être regarder la productivité. Parce que c'est évident que si les Français travaillent 1546 heures, ils ont une productivité de 50, et que les Allemands travaillent 1437, mais ils ont une productivité de 100, ça veut dire que les Allemands travaillent beaucoup plus que nous. Alors là, aux surprises. Et enfin, l'OCDE choisit toujours comme base 100, parce que là, du coup, c'est pas que c'est plus difficile à mesurer, mais en tout cas, on peut pas dire la productivité, c'est emballer 40 régimes de bananes ou produire une voiture à l'heure. Donc, il faut comparer avec quelqu'un. Donc, l'OCDE compare avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est 100. Eh bien, figurez-vous que les Français, ils sont à 101. Les Français, ils sont à 101. Ça veut dire qu'on travaille plus que les Américains. Mais là où c'est encore plus étonnant, c'est que les Allemands, ils sont à 91, donc moins que les Français, moins que les Américains. Les Britanniques, qui tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils travaillaient plus que nous, ils sont qu'à 83. Les Italiens, alors ça ne surprendra personne, parce que je suppose que vous n'aimez pas les Italiens, vous êtes comme tout le monde. Donc les Italiens, ils travaillent que 79 heures, 70, ils sont qu'à 79, pardon. Mais là où vous serez sûrement surpris, parce que, en tout cas, moi j'ai été extrêmement surpris, c'est que les Japonais, ils sont à 71. Et les Sud-Coréens, dont on n'arrête pas de nous vanter, les Sud-Coréens, d'après l'OCDE, hein, donc encore une fois, ce n'est pas des chiffres de gauchistes, hein, ça, ils sont à 41. Ils sont à 41. Alors après, je me suis dit qu'il y avait encore autre chose. Oui, mais la Chine ne fait pas partie de l'OCDE, donc il n'y a pas les... Voilà. Mais cela dit, les Chinois, ils ne doivent pas être très très hauts. Alors après, je me suis dit, pour vous prouver mon honnêteté, je me suis dit qu'il y avait une chose, les Français, ils étaient peut-être à 101. Mais ça, c'était les chiffres de 2005. Mais si ça se trouve, en 2004, les Français, ils étaient complètement largués, etc. Bon, et donc, il fallait mesurer le taux de croissance de la productivité. Alors, le taux de croissance de la productivité chez les Français, donc c'est vraiment qui s'accroche, ils sont à 1,5% par an pour la période 2000-2005, parce que là, c'était mesuré sur 5 ans. Les Anglais, alors ils essayent de nous rattraper parce qu'ils sont à 1,8%, mais c'est les seuls qui essayent de nous rattraper, donc ils doivent vraiment avoir un grain quelque part. Les Allemands, ils sont à 1,3%. Là, ce qui est assez surprenant, c'est que les Pays-Bas, ils sont à 0,9%. Donc eux, ils cherchent absolument pas. Ils sont à 1367 heures et à 0,9%, ça les intéresse pas du tout. Et les Italiens, là, c'est pas une surprise, ils sont à 0,3%. Donc, les Italiens. Donc je vous conseille déjà d'emblée, quand vous quittez l'université des bistrots tout à l'heure, d'aller en Italie. Il n'y a pas besoin de passeport grâce à Schengen. Il n'y a pas besoin. Et puis de vous installer en Italie parce que ça a l'air quand même beaucoup plus cool. Donc, il y a quand même un problème parce que, enfin, le problème qu'il y a, c'est un problème politique. En fait, ça me pose pas tellement de problèmes que Sarkozy mente, parce que ça, si vous voulez, ça m'étonne pas globalement. Mais là, ce qui m'a le plus dérangé dans cette enquête, parce que c'est une vraie enquête, je suis allé sur Internet, enfin, c'est une enquête que j'ai faite depuis chez moi, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est après j'ai repris l'article de Denis Clerc dans Alternative économique, et de me dire que Denis Clerc, lui, eh ben, il disait aussi que Sarkozy avait raison. Bon, alors maintenant, depuis, ça devient tellement monstrueux, cette histoire-là, qu'il y a quand même, heureusement, des gens qui commencent à dire que c'est faux, que les Français sont pas ceux qui bossent le moins en Europe. Mais c'est quand même un peu grave qu'une revue comme Alternative économique, qui est quand même une revue considérée comme bien ancrée à gauche, soit perméable à ce point-là au discours du pouvoir. Ça m'a un petit peu, ça m'a quand même un petit peu dérangé. Voilà. Alors, bon, je pense que la valeur travail, le travail n'est pas une valeur. Et en fait, j'avais commencé cette enquête pour une raison bien simple, c'est que j'avais mis la question du travail en relation avec autre chose, qui apparemment a rien à voir, mais c'était la consommation d'antidépresseurs et puis d'anxiolytiques en France, parce que la France est le pays, je crois que c'est du monde, où on consomme le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et moi, je crois pas que les Français soient plus malheureux, qu'il y ait plus de divorces, qu'il y ait plus de suicides, qu'il y ait plus de choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que disent les chiffres. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de suicides, beaucoup de tout ce que vous voulez. Enfin bon. Et je pensais que la cause de cette consommation effrénée, c'était précisément le mal-être au travail. Alors depuis que j'écris ce bouquin, il y a un film que vous avez peut-être, enfin certains d'entre vous ont peut-être vu, qui s'appelle « J'ai très mal au travail » de Jean-Michel Carré. Il y a aussi un bouquin qui est sorti, alors là je crois qu'il est sorti avant mon bouquin sur Sarko, de... Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bon, tant pis, Gangloff, là, qui s'appelle Souffrance au travail, et puis un autre d'un type qui s'appelle Des jours. Enfin bon, il y a plusieurs trucs qui sortent là-dessus. Comment ? Il y a Pierre Carle aussi. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui commencent à sortir là-dessus. Et en France, on voit que les conditions de travail, elles sont assez terribles. Je pense, enfin, moi, je bosse dans l'édition, mais à domicile, il me semble qu'en 5 ans, ça s'est bien dégradé, même si moi je suis encore dans des conditions de travail qui sont assez enfin qui sont supportables, quoi. C'est sûr que je suis pas dans une entreprise avec un petit chef qui est au-dessus de moi, puisque précisément d'abord c'est moi qui dirige les collections, donc ça c'est un certain confort, et puis finalement il y a que la directrice, parce que c'est toutes des femmes, la directrice de la maison d'édition qui est au-dessus de moi. Mais même, je vois que finalement, les conditions de travail se dégradent. Et je pense que cette consommation d'antidépresseurs et puis d'anxiolytiques, elle est due essentiellement à ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs bouquins qui mettent effectivement les conditions de travail comme cause numéro un de consommation de ces poisons. Voilà. Alors, donc... Je n'ai pas l'intention de parler des conditions de travail en France plus largement, parce que bah, vous les connaissez autant que moi, ou en tout cas ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Ce que je veux maintenant, le deuxième point que je voulais aborder, c'était la question d'être contre le travail. Parce que la question d'être contre le travail, ça pose d'emblée une question. Donc je vous ai dit que je travaillais. En plus, à part d'avoir fait de faire encore quelques des bouquins, j'ai fait du maraîchage. Donc, avec ma compagne, on a fourni pendant 5 ans un restaurant 2 étoiles en légumes bio. Moi, ce qui est énormément de boulot, parce que c'est vachement compliqué à faire, en fait, parce qu'il faut tenir les légumes pendant un certain nombre de mois, vu qu'il avait 2 étoiles au Michelin, donc c'est pas rien. Et puis, j'ai aussi fourni pendant 3 ans des citrouilles à l'épicerie Fauchon. Donc, c'est du boulot, ça aussi. Et bref, je travaille. Et pourtant, j'écris contre le travail. Alors, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Parce que être contre le travail... C'est un objectif, et je pense que la chose qui est essentielle dans la société actuelle, puisque précisément pour avoir de l'argent, pour vivre, pour survivre et puis pour arriver à faire quelque chose, on a besoin d'argent et que la seule solution c'est le travail, donc de toute façon on est obligé de travailler. Donc ça c'est une chose. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut surtout pas se passer de critiquer le travail. Parce que c'est là que ce serait... C'est là que ce serait totalement catastrophique. C'est si on se passait de critiquer le travail, si on arrêtait de critiquer le travail. Parce que si on arrête de critiquer le travail, ça veut dire qu'on accepte les conditions qui nous sont faites. Et là, d'une certaine façon, c'est une... Enfin, pour moi, c'est une mort politique. parce que ça veut dire qu'il n'y a strictement rien à changer. Donc, il faut absolument qu'on continue à critiquer le travail. Alors, pas le critiquer comme ça abstraitement, il faut asseoir la critique sur un certain nombre de choses, mais en tout cas, il ne faut surtout pas ne pas critiquer le travail. Il faut absolument le critiquer. Alors, sur quelle base asseoir la critique du travail ? Pour moi, il y a quelque chose qui est devenu en plus évident en ces trois dernières années, parce que ça, c'est la grosse Bertha du discours politique actuel, c'est tout simplement la crise écologique, le réchauffement du climat, etc. Alors ça, on n'arrête pas de nous balancer ça. Donc, il faut qu'on produise, différemment. Il faut que, il y a toutes sortes de choses qu'il faut changer, mais on remet surtout pas en cause le travail. Il faut qu'on travaille à arranger notre planète, sans remettre en cause le travail, sans remettre en cause la consommation. Or, c'est là qu'il y a tout le nœud, c'est que on peut essayer de sauver la planète. Enfin bon, à mon avis, ça se pose pas exactement dans ces termes-là. Mais enfin, je reprends les termes du discours dominant exprès. On peut essayer de sauver la planète en faisant comme Al Gore ou comme le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire en faisant du capitalisme vert. Je vais pas détailler. Enfin, si vous voulez me poser des questions, je vais bien répondre. Mais en tout cas, je veux pas détailler parce que je pense que à force, ça finit par être évident tellement on nous rebat les oreilles avec ça. Mais en tout cas. On ne remet pas ce qu'ils essayent de faire actuellement, Sarkozy, Al Gore, enfin tous les gens qui sont au pouvoir, l'ONU, enfin tous quoi. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de sauver le capitalisme en sauvant la consommation et en faisant une consommation éthique, alors là avec des énormes guillemets, et puis une consommation qui va pas réchauffer la planète, qui va pas augmenter la pollution, etc. Bon, libre à eux de s'engager dans cette voie. Moi, c'est pas du tout la mienne. Enfin, moi, j'ai fondé un mouvement écologique quand j'avais 15 ans, enfin, cofondé, hein, enfin, on était quatre, et suite à la candidature de René Dumont. Et en 74, donc, Dumont, il avait un discours qui était radical, et quand on voit ce que sont devenus les Verts, le discours, la radicalité, on l'a complètement, ils l'ont complètement passé par-dessus bord. Je pense qu'il faut, au contraire, revenir à ce discours radical, et c'est essentiel de critiquer la consommation, parce qu'on consomme beaucoup trop. On consomme n'importe quoi, on consomme des marchandises inutiles, etc. Seulement, si on critique la consommation, on ne peut pas se passer de critiquer le travail. C'est évident, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne travaille plus que pour une seule chose, c'est pour consommer. Il n'y a qu'à voir, si vous lisez le programme de Sarkozy et puis le programme de pas mal d'autres partis politiques, faut que ce soit en France ou dans d'autres pays, de toute façon, c'est finalement le seul horizon de vie qu'on nous propose. C'est travailler pour consommer. Bon, là, on est à l'université des bistrots, donc on fait autre chose, et puis c'est pas une consommation de savoir, hein, c'est autre chose. Enfin, moi, je conçois ça comme un échange de savoir, et puis je pense que c'est réellement ça. En tout cas, c'est pas de la consommation. Mais tout le reste de ce qu'on nous propose dans la vie, quasiment, à part les choses qu'on s'aménage chacun en commun, ou etc. Mais en tout cas, ce que propose globalement le système, c'est consommer, consommer, consommer. Donc, travailler. Si vous travaillez, vous aurez de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pourrez consommer. Et puis, comme ça, vous rentrerez au mois de septembre, vous serez tout bronzé. Et puis, vous serez allé, ah ouais, bah moi, j'ai fait l'Égypte en 15 jours. Et puis l'autre, ouais, j'ai fait les Bahamas, etc. On consomme, on consomme, on consomme. Bon, c'est exactement ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de consommer. Alors, si on veut arrêter de consommer, ça veut donc dire qu'il faut critiquer le mode de consommation qu'on nous impose, mais c'est forcé qu'il faut critiquer le travail. Et si on critique le travail et la consommation, il y a quelque chose qui, tout de suite, une question qui vient à l'esprit, mais alors l'humanité, c'est quoi la vie, c'est quoi le progrès qu'il y a dans l'humanité depuis, est-ce que vous voulez revenir à Cro-Magnon, etc. Non, la question c'est pas de revenir à Cro-Magnon, la question c'est d'essayer de comprendre à quel moment il y a un problème, et pourquoi Cro-Magnon ou ses successeurs, ils arrêtent de chasser et puis de cueillir, puis d'un seul coup, ils se mettent à faire de l'agriculture, et puis d'un seul coup, à partir de l'agriculture, il y a des gens qui prennent le pouvoir, parce que c'est exactement ça en Mésopotamie, puisque c'est là que se passe la révolution agricole, enfin, l'apparition de l'agriculture, pardon, donc ils arrêtent de chasser et de cueillir, ils se mettent à cultiver, ils font de l'élevage, parce qu'il y a des conditions idéales, et après, comme par hasard, c'est là qu'apparaît l'écriture. C'est pas du tout un hasard. C'est pourquoi est-ce qu'on écrit les scribes à Sumer ou à Uruk, ils écrivent pour compter les moutons qu'on amène dans la ville pour compter la quantité de grains. Et pourquoi on amène des moutons et des quantités de grains dans la ville? Parce qu'on a commencé à construire des villes, on a installé un roi avec des idoles, patati, patata, etc. Et puis on arrive... Non mais je fais un résumé, mais un peu, c'est un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, quand le singe s'aperçoit qu'avec l'os, il va pouvoir être aussi fort que les autres singes, hop, on voit ce singe qui lance cet os dans l'espace, et puis après, on arrive directement aux vaisseaux spatiaux. Bon, c'est sans doute une des images philosophiques les plus fortes du cinéma, et puis pas seulement du cinéma, parce que c'est un raccourci absolument époustouflant, mais il a raison, c'est exactement ça, quoi. À partir du moment où il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, il n'y a plus la sagesse qui va dire « Eh oh, stop !» Faut arrêter. Ça sert à quoi que les paysans qui bossaient avant dans leur village pour bouffer, eux, tous ensemble, en communauté, et puis qui décidaient des trucs plus ou moins, enfin de manière qu'on peut supposer communautaire, enfin on va pas s'enferrer dans le débat de savoir s'il y a un communisme primitif ou pas, mais enfin bon, en tout cas, ils faisaient ça de manière plus ou moins communautaire, et il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que quand ils sont obligés de produire pour les types qui restent dans les villes, là je suis en train de parler des villes de Mésopotamie, hein, là, ils sont obligés de produire du surplus. Donc ils sont obligés d'abandonner leurs outils en bois pour des outils en fer, etc. Puis on en arrive aujourd'hui avec, puisque je crois donc à l'université Bistrot, il y a déjà Berland qui est venu. Donc tous les étudiants ici devaient être au courant. Enfin, je pense que Berland, il a dû faire un raccourci de l'agriculture. Enfin, il a dû expliquer comment ça s'était passé, peut-être. Enfin, bon, en tout cas, en gros, on peut dire que les agriculteurs aujourd'hui, de toute façon, vous avez tous aperçu qu'aujourd'hui, en France, il n'y a même plus 4% d'agriculteurs. Hein. Pendant qu'au moment de la Révolution française, il y avait 80% d'agriculteurs. Bon, donc, de toute façon, rien que ça. Et les 80% d'agriculteurs de 1789, ils produisaient pour 100% de Français. Et là, les 4% d'agriculteurs français, ils produisent pour largement plus que 100% de Français. Donc, déjà, rien que ça, c'est une des données fondamentales du monde contemporain. Alors, là où je veux en venir, c'est tout simplement que le travail, il est lié au progrès, c'est-à-dire que les conditions de travail se dégradent au fur et à mesure qu'on avance dans le progrès, et puis là où c'est complètement catastrophique, c'est qu'à la limite, on aurait pu en être bénéficiaire, pas du tout, parce que l'économie, ce qu'on appelle l'économie, même la science économique, le discours dominant consiste à dire que le but de l'économie, c'est de produire de la richesse. En réalité, le but de l'économie, c'est absolument pas de produire de la richesse. Si on regarde bien, le but de l'économie, c'est de répartir la rareté. Donc, il y a des gens qui ont très peu, et puis il y en a d'autres qui ont énormément. Ça, à l'échelle de la France, comme à l'échelle du monde entier. Alors, à l'échelle de la France, puis je vais bientôt m'arrêter parce que ça fait presque une demi-heure, je parlerai qu'une demi-heure. Donc, il manque tout un tas de choses. Non, mais de toute façon, je veux pas continuer, je préfère... À l'échelle de la France, pour terminer comme j'ai commencé, donc avec le... Ah non, je dirai un truc après, quand même, pour terminer sur une note positive. Donc, pour presque terminer comme j'ai commencé, donc avec le tyran président Sarkozy, et toujours pour rester dans les chiffres, et là, avec les chiffres de l'INSEE, alors je sais plus les chiffres par cœur, mais c'est très facile à aller regarder, hein. L'INSEE mesure la répartition du produit intérieur brut par décile. C'est-à-dire, un décile, c'est 10% de Français, donc ils prennent les 10% les plus riches, après les 10% un peu moins riches, et puis les 10% les plus pauvres. Donc, les 10% de Français les plus riches, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, je crois que les 10% de Français les plus riches, en 2007, ils accaparaient 24,6% du produit intérieur brut. Pendant que les 10% les plus pauvres, en 2007, en avaient 4%. Eh bien, en seulement un an, Sarkozy, il a réussi à faire baisser les 10% de plus pauvres de 4, ça faisait pas beaucoup, à 3,6%, et les 10% les plus riches, ils sont passés de 24,6 à 25,2%. Quand vous voyez la somme de fric que ça représente, la complexité qu'il y a pour réorganiser la rareté, les transferts de fric et tout, moi je dis que bravo pour arriver à transférer comme ça, à prendre 0,5% aux plus pauvres, et puis les balancer directement aux plus riches. Alors là, chapeau, parce qu'il faut quand même le faire. Parce que c'est normalement, c'est des trucs, ça varie de 0,1, 0,2% par an, c'est tout. Lui, c'est fou. Et là, quand on va voir les chiffres de 2008, et puis ceux de 2009 plutôt, enfin, ça va augmenter, ça va être encore pire. Donc là, la répartition de la richesse en France, elle est à peu près comparable à ce qu'elle était dans l'Espagne sous Franco. Ce qui est assez impressionnant. Bon, alors évidemment, on n'atteint pas encore les niveaux de la Chine ou de certains pays, ou de pays genre nombre de pays du Sud, parce que là au Sud, c'est En Russie. Il y a des pays. En fait, c'est assez intéressant comme mesure de mesurer les 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. Parce qu'en gros, on peut dire que plus l'État il est dictatorial. Enfin, là, je fais un. Bon, c'est en gros, mais c'est quand même pas très éloigné du. Il faudrait vraiment prendre toutes les statistiques, enfin celles qui sont fiables, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas tellement fiables. Mais en gros, plus l'État il est dictatorial, donc c'est vrai que la Russie c'est un bon exemple, la Chine aussi. Plus l'État est dictatorial, plus les 10% de plus riches ont, et moins les 10% de plus pauvres ont. Voilà. Alors, pour terminer sur une note plus optimiste, parce que en fait, je suis foncièrement optimiste. Moi, je pense pas du tout que c'est foutu. Je pense pas que politiquement on a perdu. Je pense pas que on est voué à travailler toute notre vie et puis qu'on va en crever. Pas du tout. Donc, j'ai quand même une proposition qui n'est pas un programme. J'ai juste une proposition. J'ai pas de programme. Je sais pas comment est-ce qu'on peut s'arrêter de travailler tout de suite. Je pense même qu'il y a des choses qui sont. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était pas possible de se mettre à voler. Enfin d'ailleurs si on se mettait tous à voler, ça serait un petit peu embêtant. Enfin quoique, remarquez, on pourrait peut-être aller voler du côté de Neuilly, pareil, qu'il y a pas mal de choses à voler là-bas. Bon, bref. Donc j'ai une proposition qu'on peut décliner de plusieurs façons. Enfin, en tout cas, je dirais deux mots, c'est désobéir et puis non agir. L'idée de la désobéissance, je l'emprunte à Gandhi, bien que j'aime pas tellement Gandhi, mais ça empêche que je lui emprunte l'idée de la désobéissance parce que je pense que désobéir à un pouvoir qui nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, je pense que c'est essentiel et que c'est possible, chacun à son niveau. Et puis le non-agir, ça je l'emprunte au taoïste, d'ailleurs je conseille à toute l'assistance la lecture de Lidze, le vrai classique du vide parfait, mais malheureusement je crois que ça n'existe plus séparé, donc on est obligé d'acheter carrément le bouquin sur les philosophes taoïstes à la Pléiade, donc ça coûte un peu cher, mais enfin ça empêche que dans le vrai classique du vide parfait, puis aussi dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, il y a un concept que je trouve, enfin donc ça date d'il y a 2500 ans, et il y a un concept que je trouve extrêmement révolutionnaire, c'est une vraie dynamite, et qui est encore tout à fait valable à l'heure actuelle, c'est le non-agir. Alors les taoïstes, ils disaient qu'il fallait non-agir contre, il fallait rester comme on était, puis non-agir et voir, et laisser les choses se faire. Alors évidemment, eux, ils disaient ça il y a 2500 ans, il n'y avait pas la pollution, il n'y avait pas l'oppression, n'avait pas pris exactement la forme qu'elle a prise aujourd'hui et tout. Mais si on y réfléchit, aujourd'hui, si on décidait de non-agir contre la planète, et puis de non-agir contre les autres êtres humains, bon, notamment ceux qui, au sud de la planète, pâtissent de notre mode de vie. Il y avait 840 millions de personnes qui étaient sous-alimentées d'après la FAO en 2005. Il y en a 963 millions en 2008, alors que l'ONU, les pays de l'ONU avaient pris l'engagement de réduire la faim dans le monde de moitié entre 1997 ou je sais pas quoi, et 2015. Donc non seulement ils ne vont pas la réduire de moitié, mais là maintenant, le directeur de la FAO a dit que c'était certain que ça allait passer le cap du milliard d'êtres humains sous-alimentés. Et en plus, on pourrait ajouter que les critères de la FAO, quand vous êtes sous-alimenté selon la FAO, vous êtes vraiment sous-alimenté. Hein. Enfin bon, ça encore, c'est un détail. Bon, bref, si on décidait de désobéir au pouvoir quand il nous demande de faire des choses qui sont contraires à l'humanité, et puis si on décidait aussi de non agir contre l'humanité, de non agir contre la planète, moi je dis qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Et notamment, on remettrait en cause le travail tel qu'on l'accomplit actuellement. Voilà. Et je m'arrête. Puis je bois un coup. Ah mais...
Voilà, donc si vous avez des questions, des envie d'avoir des précisions, des choses. Par exemple, moi, je peux commencer ?
Ah oui, parce que je préfère parler qu'une demi-heure et puis répondre aux questions plutôt que de donner toutes les étapes d'un raisonnement, parce que je trouve pas que ce soit très intéressant. Parce qu'en plus, je vais mettre à parler de quelque chose et puis je préfère que ce soit vous qui me demandiez. Puis par exemple, il y a quelqu'un qui voulait apparemment, d'après ce que disait Claire tout à l'heure ou toi, je sais pas, quelqu'un qui voulait qu'on parle du travail des enfants. Donc j'ai écrit deux bouquins sur le travail des enfants, donc je veux bien parler du travail des enfants. Par exemple, parce que là, j'en ai pas parlé du tout.
D'accord.
Voilà.
Je vous rappelle que le micro, c'est simplement parce qu'on enregistre ce qui se dit, et puis ensuite, ça s'écoute sur Internet. Et si on le fait pas dans le micro, c'est mauvais, quoi. On n'entend pas. Donc, il faut absolument se servir du micro.
Ouais, bonsoir. Bon, moi, j'avais vu votre présentation dans le journal. Je pensais que vous alliez effectivement parler du travail des enfants. Et puis je me suis aperçu que c'était aussi un discours très politique, en fait, déjà dans le journal, vous aviez une position. Oui, alors, simplement une petite position, avez-vous pensé que le travail peut être un bien-être pour les gens et pas la nécessité de relations toujours d'argent, comme vous y pensez, etc. Bon, puis c'est sûr qu'il peut être bien de ne rien faire, mais qui alimentera les gens qui ne travaillent pas actuellement, qui d'ailleurs ne cherchent pas forcément le travail. Hein, on est quand même une société de, on peut dire, une certaine assistance. Si vous comparez à la Chine, comparez à la Russie, ou à l'Afrique, si vous connaissez l'Afrique comme moi un peu, si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Alors, voilà, mais le travail peut être une source de bien-être chez les gens aussi, il faut y penser. Voilà.
Mais ça, j'en suis parfaitement convaincu. Bon, je me plaçais dans une perspective, c'est-à-dire que j'ai dit deux choses. J'ai dit que j'étais contre le travail, mais que de toute façon, je travaillais. Et d'un autre côté, si on ne pouvait pas se passer de travailler, on ne pouvait pas se passer de critiquer le travail. Donc, j'ai déjà répondu en partie à la question. Après, le fait que le travail, ce soit une source de bien-être, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a des... Par exemple, le travail que je fais, je ne sais pas, bon, il y a quelques bouquins qui sont là. Enfin, les bouquins politiques, là, je ne considère pas du tout que ce soit du travail, parce que de toute façon, je ne suis pas payé. Enfin, je suis payé en droit d'auteur une fois qu'il les a vendus, mais je veux dire que je ne suis pas payé. Déjà, ça, pour moi, c'est que ça fait une différence énorme. Alors que les autres trucs, je les propose à un éditeur commercial qui me paye et tout. Donc, je fais parfaitement la différence entre les deux. Et pourtant, j'ai écrit, je crois, j'en suis à 30 titres pour la jeunesse, je crois que j'en ai écrit 35. Et sur les 35 titres pour la jeunesse, il y en a un seul, c'est une commande. Ça veut donc dire que les 34 autres, je les ai écrits parce que c'est moi qui les ai proposés. Donc, si je les ai proposés, et si on part du principe, j'espère que vous me l'accorderez, que je ne suis pas masochiste, donc ça veut dire que j'étais d'accord. Et en plus, je peux dire très clairement que je ne l'ai pas fait que pour le fric. J'ai fait pour le fric, mais j'ai aussi fait parce que j'avais envie de mettre dedans un certain contenu. Bon, là, il y a quelques-uns, mais on ne va pas parler de ça. Mais j'avais envie de mettre dedans dans un certain contenu. Donc, j'ai pris du plaisir à travailler. Ça, je ne le nie pas du tout. Seulement, ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut regarder, à mon avis, c'est à l'échelle globale, de voir les conséquences du travail. Alors, évidemment, il y a des gens qui travaillent et puis pour lesquels c'est bien. Mais je pense qu'il y a d'abord une majorité de gens qui souffrent au travail. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, pour moi, le truc est totalement essentiel, c'est que le travail, la forme qu'il a revêtue dans nos sociétés à nous, hein, dans les sociétés occidentales, donc couplé au progrès et puis à l'économie, donc que moi je défends réellement que l'économie c'est la répartition de la rareté et absolument pas la création de richesse, hein. Ça si vous voulez je peux développer. À ce moment-là, il faut quand même comprendre que le travail sous la forme qu'on vit ici, c'est de la misère. Dans les pays pauvres, je prendrais un seul, enfin pauvres, dans les pays appauvris, pardon, excusez-moi, je prendrais un seul truc. D'après le FMI, ils estiment, le FMI, parce que ça n'existait pas à cette époque-là, évidemment, ils estiment qu'en 1850, la différence entre les pays riches et les pays pauvres, elle était de 1 à 3. Bon, et puis en plus, si on regarde un petit, si on réfléchit à 2-3 trucs, pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher des esclaves en Afrique noire? C'est parce que les gens, ils étaient baraques. Bon, ils étaient baraques, sans jeu de mots. Ils étaient baraqués, ils étaient costauds et tout. Et donc, on les a amenés aux États-Unis pour travailler, parce que les Blancs et les Amérindiens, par exemple, résistaient pas dans les plantations. Bon, allez regarder maintenant la carte de la faim dans le monde et regardez l'état sanitaire des Africains. Moi, si j'étais planteur en Floride et puis que j'avais besoin d'esclaves, j'irais sûrement pas les chercher en Afrique, parce qu'ils sont dans un état, et bon, c'est donc bien qu'on les a appauvris. Prenez l'Inde, quand vous voyez l'Inde, qu'est-ce que c'était l'Inde quand les Anglais s'y sont installés et quand les Anglais en sont partis, c'est pareil. D'après le FMI, en 1850, la différence entre les pays riches était de 1 à 3. Aujourd'hui, toujours d'après le FMI, c'est de 1 à 92. C'est de 1 à 92. Alors on peut dire, oui, mais si l'écart, il peut monter, puis ceux du bas, ils peuvent grimper. Hein, parce que c'est vrai que ça pourrait faire un truc comme ça, puis... Là, ça grimpe à maximum ceux du haut, et puis ceux du bas, ils grimpent quand même. Donc ceux du haut tirent ceux du bas. En réalité, c'est faux. Bon, c'est faux. Si vous avez voyagé en Afrique, bon, moi je suis allé en Inde, j'ai passé 5 mois, j'ai passé plus d'un an et demi en Amérique du Sud. C'est impossible de penser, par exemple, que les Indiens au XVIIe siècle puissent élever le Taj Mahal dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Et puis encore, l'Inde, c'est pas le pays le pire. C'est pas le pays le pire. Donc, quand je dis dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, là, Je dis absolument pas ça contre les Indiens. Au contraire, j'adore les Indiens. J'ai appris le hindi, j'ai appris le bengali. J'adore l'Inde et j'adore les Indiens. Mais ça me fait souffrir de voir comment des milliards d'êtres humains, parce que là, c'est même plus question de millions ou de centaines de millions, mais comment des milliards d'êtres humains en Asie, en Amérique latine et en Afrique ont pu être réduits par un système économique, le mot c'est impérialisme, finalement c'est pas si mauvais que ça, en tout cas un système économique qui s'est exporté et puis qui s'est imposé, comment des gens ont pu être réduits à une telle... c'est plus de la pauvreté, là c'est carrément de la misère. Parce que là c'est carrément de la misère.
Oui, je voulais vous demander, vous avez parlé de vol, mais le vol c'est du travail.
Vous voulez dire que c'est compliqué de voler ?
Non, mais ça nécessite du travail.
Moi, j'ai écrit que ça nécessitait un certain savoir-faire. je pense que c'est... Mais bon, après, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas fait de casse. Hein. Je suis pas allé... J'ai fait aucun vol à main armée, par exemple. J'ai jamais volé dans une maison, donc je voulais juste à l'étalage dans des magasins. Donc, c'est pas tellement compliqué. Vous voulez que je vous explique comment on fait ? Enfin, cela dit, il y a des trucs que vous pouvez plus faire, hein, parce que c'est assez compliqué maintenant. C'est assez compliqué. Hein, voler dans les supermarchés, c'est compliqué.
Je voulais vous demander.
Par contre, attendez, juste un petit truc. J'aurais dit, par rapport au vol, moi, et puis au travail, moi, juste un petit truc qui répond d'ailleurs aussi en partie à la première question. C'est que pour moi, je suis contre le parasitisme. Donc, il y a, le parasitisme, par exemple, bon, quand mon bouquin est sorti, là, Contre le travail, il y a un type qui s'appelle Bob Black, mais je pense que c'est un pseudo avec un nom pareil. Donc Bob Black, c'est chez, je sais jamais si c'est Dagourneau, l'esprit frappeur, enfin bon, en tout cas, c'est ces petits bouquins tout petits. Et ça s'appelle Travailler, moi, jamais. Et en fait, quand vous lisez le bouquin du type, c'est un parasite. C'est-à-dire qu'il explique comment il fait pour pas travailler. Alors c'est sûr. Tiens, qu'est-ce que vous faites ce soir-là ? Parce que justement, là, j'ai besoin de manger. Puis voilà. Et puis tiens, vous auriez pas un petit peu d'essence là, pour me filer dans ma bagnole ? Bon, donc le mec, c'est un vrai parasite. Et lui, il appelle ça travailler, moi jamais. Moi, je dis non, parce que dans le fond, le système qui est fondé sur le travail, c'est du parasitisme. C'est le parasitisme des pauvres par les riches, etc. Donc si travailler, moi jamais, et puis parce que j'ai trouvé des systèmes de débrouille, là, peut-être qu'il travaille pas. Il a l'impression qu'il travaille pas parce qu'il va pas pointer, mais ça empêche que dans le fond, il parasite et donc pour moi, il travaille d'une certaine façon.
Oui, je voulais aussi vous poser la question, pourquoi tout le monde est contre les 35 heures là, que ça remue partout et...
Pourquoi tout le monde est contre les 35
heures ? C'est pas tout le monde, mais on entend parler des 35 heures et on veut les tuer, quoi.
Alors, moi, je donne mon opinion, mais qui est très... Bon, moi, je pense qu'il y a un problème. Enfin, en 84, 85, 86, j'étais membre d'un syndicat de chômeurs qui s'appelle le syndicat des chômeurs, qui était dirigé par un type qui s'appelle Maurice Paga. Et donc, on réfléchissait beaucoup à cette question du travail, à la question du chômage et puis la question du nombre d'heures travaillées. Bon, il publie une revue qui s'appelle Partage, je suppose que ça existe encore, mais en tout cas, dans Partage, on n'arrêtait pas de publier des prospectives, enfin des études prospectives. Alors, il y en avait un qui disait qu'il fallait un revenu de citoyenneté, il y en a un autre qui disait qu'il fallait un revenu universel, un autre qui disait qu'il fallait un revenu sur toute sa vie, un autre qui disait qu'il fallait travailler 20 heures, après il y en a un autre qui vous expliquait que c'était pas 20 heures, c'était 18, un autre qui vous disait que c'était 35. Bon, moi, à mon avis, là-dedans, il y a un vrai problème, c'est que c'est quoi... il se pose pas la question de relier tous les éléments. Produire quoi, pour consommer quoi, et puis pour vivre quel type de vie. Et bon, si on se pose pas la question de ça, on peut très bien dire, bah oui, il suffit de travailler 18 heures, ou il suffit d'en travailler 20, ou alors il suffit d'avoir un revenu sur toute sa vie, parce qu'on a envie de travailler, mettons, je sais pas, entre, ceux qui disent qu'il faut avoir un truc sur toute sa vie, alors ils disent, oui, bah on va travailler entre 18 et puis 25 ans, puis à 25 ans, on va avoir des enfants, donc ça serait bien que de 25 à 32 ans, on s'arrête de travailler, puis après on recommence de 32 à... Bon, on peut en échafauder 50 000 des théories comme ça. Je dis pas que ça m'intéresse pas, puis je dis pas du tout que c'est pas intéressant, hein, pas du tout. Mais je dis qu'il y a un petit problème dans toutes ces théories, c'est que la réflexion, elle prend pas en compte le sens profond de la vie. Or, moi, pour moi, la vie, enfin pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir décider de l'emploi de ma vie. C'est de pouvoir décider de l'emploi de ma vie. Alors, qu'on me dise qu'il faut que je travaille 20 heures, ou qu'on me dise qu'il faut que je travaille 35 heures, ou qu'on me dise qu'il faut que je travaille de 25 à 32 ans, puis de 40 à 92, ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas tellement, personnellement. Ça m'intéresse pas tellement, parce que moi, j'aimerais bien qu'on me foute la paix, et puis que je fasse pas ce que je veux, parce que j'ai pas non plus envie de faire ce que je veux contre les autres, parce que précisément, je suis contre le parasitisme. Mais en tout cas, ça se trouve que c'est... ça pêche, toutes ces théories-là, elles pêchent toujours par ce truc-là. C'est qu'ils considèrent pas ça. Puis alors, les théories les moins élaborées, alors elles ne considèrent pas la question de pays pauvre, pays appauvri, pays riche, pardon, pays appauvri. On a l'impression que ce qui se passe en France, ça pourrait fonctionner, alors qu'il y a quand même quelque chose qui devrait crever les yeux de tous ceux qui connaissent 2-3 grammes d'histoire, c'est que si la France et la Grande-Bretagne ont pu abolir le travail des enfants au XIXe siècle, c'est parce qu'ils ont pu s'appuyer sur un empire colonial où ils ont trouvé des gens qu'ils ont payés encore moins cher que les enfants, pour faire des tâches qui étaient plus ou moins similaires. C'est pour ça. Alors donc, après, il y a les gens qui vous disent « Oui, mais de toute façon, la France et puis la Grande-Bretagne, ils sont arrivés à se passer du travail des enfants. Donc, un jour, le Pérou et l'Inde, ils y arriveront. » Ah ouais, ben le Pérou et l'Inde, ils feront travailler qui ? Moins cher qu'eux. C'est une aberration. Je ne sais pas comment il y a encore des gens qui peuvent dire sérieusement, qui sont invités dans des débats. Moi, ça me met hors de moi quand j'entends ça. Puis qui disent, ouais, mais il ne faut pas vous inquiéter. De toute façon, le travail des enfants, c'est jamais qu'une étape. Ils vont y arriver. Mais pour y arriver, il faudrait trouver, forcément, surtout sur un marché qui est complètement globalisé. Si les Chinois, ils arrivent à vendre leurs cochonneries ici, ou les Indiens, ou etc., c'est bien parce qu'elles sont payées 3 francs 6 sous. Si elles n'étaient pas payées 3 francs 6 sous, ils n'arriveraient pas à les vendre. Nous, si on arrivait à se passer du travail des enfants qui était payé 4 fois moins que les hommes et puis 2 fois moins que les femmes, c'est parce qu'on a fait travailler les Noirs et puis les Anglais, ils ont fait travailler les Indiens, etc. pour que les marchandises arrivent en France ou en Angleterre à un prix inférieur aux mêmes marchandises produites par les gamins. Bon, donc là, je m'égare, je ne sais plus où j'en suis. Bon, allez, je vous repasse la parole.
Vous parlez du travail des enfants. Savez-vous que justement, il y a des actions qui ont été menées contre leur travail, bon, puisqu'ils produisaient chez Adidas, etc., tout ça. Mais savez-vous aussi qu'il y a des familles qui ont crevé de faim, parce que les enfants sont nécessaires. Vous voyez, par exemple, alors, je ne vais pas reparler sur l'Afrique, il n'y a plus d'adultes, ils sont morts du sida. Vous ne trouvez plus que des vieilles femmes et des enfants. Ok ouais.
Mais
ça c'est un point. Puis vous parliez des sociétés. Pourquoi ne pas travailler? Vous pouvez le faire. Hein. Vous allez en Amazonie, vous rejoignez une tribu où ils ne pêchent et qu'ils ne chassent que quand ils en ont besoin. Ils ne produisent rien, ok? Parce que qui dit travail, il dit argent. En France, tout le monde veut l'argent et ne pas travailler, hein, mais c'est très bien. Donc on assiste les gens à la société. Et puis vous parliez de l'Inde également, mais il faut voir aussi, faut faire un état des ressources humaines. De la politique, de la gouvernance de ces pays, si vous parlez de la Russie, de l'Inde, de leurs ressources, et puis de leur religion. Parce que je pense que la religion est beaucoup dans la misère de certains peuples. Voilà.
Bon, la première question, la première remarque, c'est sur le travail des enfants. Supprimer le travail des enfants, ça peut conduire des familles à la misère. Alors là, bon, je l'ai plus parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le livre contre le travail des enfants, il y en a plus. Enfin, moi, j'ai qu'un seul exemplaire, je l'ai pas apporté, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Je suis entièrement d'accord, figurez-vous. Je suis entièrement d'accord. Bon, il y a un exemple énorme, enfin, j'ai écrit en 2001, mais il y avait un exemple qui était très connu à ce moment-là, c'est que aux États-Unis, ils avaient développé une énorme campagne contre la jute. Merci. Et donc, il s'était aperçu que c'était les gamins qui bossaient là-dedans, et donc il fallait boycotter le jute qui venait du Bangladesh. En boycottant ça et en n'ayant fait aucune mesure alternative, ce qui s'est passé, c'est que le jute du Bangladesh, il a périclité. Les gamins, ils n'ont plus eu aucune solution que de se prostituer ou de mendier, et c'est devenu une véritable catastrophe. Mais dans mon bouquin « Contre le travail des enfants », je ne disais absolument pas qu'il fallait arrêter le travail des enfants tout de suite. J'expliquais au contraire, j'avais pris plusieurs axes. J'avais montré d'abord que juridiquement, ce n'était pas une question de loi. En Inde, le travail des enfants, il est interdit avant 14 ans. C'est pas parce qu'il est interdit avant 14 ans, vous prenez un billet d'avion pour Delhi ou pour Chennai, et puis il n'y a pas besoin d'aller dans des recoins infâmes et puis pas fréquentés. Vous verrez des gamins de 10 ans qui réparent des motocyclettes, par exemple dans les rues de Madras, il y en a pléthore. Bon, Pourtant, c'est interdit. Et puis, les Indiens, ce n'est pas des imbéciles. Ils savent qu'est-ce que c'est que la loi et tout. C'est interdit, mais ils savent aussi que de toute façon, c'est interdit. Mais la loi, c'est que la loi. Puis, de toute façon, il y a la réalité. Donc, il faut que les gamins travaillent. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait empêcher les gamins de travailler. Je suis bien conscient que ça peut mettre les familles dans la misère et puis arriver à la prostitution ou des choses complètement encore plus catastrophiques. C'est bien pour ça que je disais qu'il y avait l'économie, il y avait la réalité économique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit cette histoire avec les colonies. Et que donc, on ne peut pas dire on est contre le travail des enfants, comme font tout un tas d'organisations prétendument humanistes, qui disent ils ne respectent pas la loi, etc. C'est pas vrai. Il y a des lois. Il n'y a quasiment aucun pays dans le monde où le travail des enfants est autorisé. Enfin, même, je crois qu'il n'y en a aucun. Donc, c'est un problème économique, mais l'économie, ça peut pas fonctionner parce que, comme je vous l'ai expliqué, il faudrait trouver des gens qui travaillent encore moins cher que les enfants. Si on prend toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on prend le système économique, comment il marche ? C'est bien évident que si vous produisez des chaussures et puis que vous me les vendez 5 euros, là, je vais bien en acheter. Mais si vous produisez des chaussures et puis que vous voulez me les vendre 20 euros pendant qu'à côté, moi, je trouve quelqu'un qui me les vend à 6, ben, je vous achèterai pas vos chaussures à 20 euros. Donc, ça, si on change pas les lois économiques, il n'y aura rien qui changera. Donc, le problème, c'est bien un problème de volonté politique. C'est la seule façon. C'est pour ça que mon bouquin, c'est un bouquin politique. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Ça ne pose pas de problème. Et de même, l'histoire de la question, la remarque que vous faisiez après. Évidemment que je pourrais partir en Amazonie, ça je suis bien d'accord. D'ailleurs, quand on est allé en Amazonie, ça coûtait 10 000 francs, c'était en 82. Si je me souviens bien, pour 10 000 francs, on pouvait acheter une portion de forêt amazonienne et puis ça devait être un truc comme 25 hectares. Là, on en était propriétaire pour 10 ans et la loi du Brésil disait qu'on avait 10 ans pour mettre en valeur les 25 hectares de forêt et ça coûtait 10 000 francs. Bon, c'était pas très cher, parce qu'à l'époque, on est parti, on a voyagé 5 mois, on avait emmené, je pense, ça avait dû nous prendre, on a peut-être 20 000 francs, un truc comme ça, 25 000 francs. Donc, on aurait tout à fait pu acheter une portion de forêt. Mais ça dépend de la perspective éthique des individus. Et moi, ma perspective, je suis complètement dinosaure, mais moi, je pense que toute l'humanité sera opprimée tant qu'un seul de ses membres sera opprimé. Donc là, c'est vraiment, c'est complètement dinosaure, sans doute, mais je vois pas pourquoi, parce que le raisonnement qui me conduirait à partir en Amazonie, ça serait, moi j'ai compris qu'est-ce qui se passe, j'ai aucune chance de changer ce monde, donc je m'en vais en Amazonie, et puis ciao, bye bye, et puis démerdez-vous. Ça, moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, je préfère rester là. Comme disait Guevara aux révolutionnaires américains qui voulaient venir à Cuba, enfin révolutionnaires, en tout cas ceux qui voulaient venir à Cuba pour aider les... Guevara, il leur a répondu... Pourquoi vous voulez venir à Cuba ? Vous êtes dans le ventre de la bête. Restez-y, on a besoin de vous. Ben moi, je préfère rester dans le ventre de la bête. Je suis pas masochiste, mais je préfère rester là et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui change ici. Parce que je pense que c'est plus important d'essayer de faire quelque chose changer ici plutôt que de partir en Amazonie et puis hop, comme ça, c'est super. Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais enfin, peut-être, on dirait... En tout cas, je vous ai répondu. Hein. Je n'ai pas évité la question. Hein.
Alors moi, j'ai pas bien compris au départ le parallèle que tu as fait entre la durée du travail, sous-entendu la pénibilité, la souffrance et tout, et la productivité. Parce que selon moi, c'est pas antinomique. On peut augmenter la productivité sans pour autant travailler plus. Quoi. C'est pas parallèle, quoi. On travaille pas plus quand on est plus productif. On peut s'organiser pour...
Oui, mais justement, à moins que j'ai pas compris la question ou la remarque, mais justement, ce que je disais, c'est que non seulement on travaille un certain nombre d'heures, donc 1546 heures par an, mais qu'en plus, on est extrêmement productif. Et je pense pas qu'en France, par exemple, on ait des machines plus, enfin c'est pas, on ait des machines plus productives ou des ordinateurs qui tournent plus vite ou des. Donc en fait, on est beaucoup plus l'attention du travailleur sur son boulot. Moi avant, par exemple, j'étais correcteur ou même là en tant qu'écrivain, enfin ou qu'auteur de bouquins pour la jeunesse. En fait, l'attention qu'on me demande. Enfin, moi, je la mesure comme ça, finalement, ma productivité, parce que moi, ça n'a pas tellement de sens. Je ne peux pas dire, tiens, ce mois-ci, j'ai produit un bouquin de 60 000 signes, et puis le mois d'après, un bouquin de 130 000, ça n'a pas tellement de sens. Mais donc, elle est plus forte. Mais j'ai peut-être pas compris la remarque. Enfin, vas-y, précise, parce que...
C'est-à-dire que, non, tu avais l'air de faire un parallèle entre la souffrance au travail, la durée du travail et la productivité.
Ben, en fait, je fais un parallèle entre souffrance et durée du travail multipliée par productivité. Ouais, je pense que plus on travaille et plus on doit être productif, plus on souffre. Ouais, je pense ça. Mais je suis pas tout seul à le penser, pour le coup. Hein.
Ouais, non, mais c'est pas parce qu'on est plus productif. On peut aussi, en étant plus productif, travailler moins.
Ah bah oui, bah ça je suis bien d'accord.
Voilà, ouais,
t'avais
l'air
ça je comprends. Ouais. Alors attendez, je n'ai pas dit que j'étais contre la productivité. Hein. Enfin,
c'est,
oui.
Ouais, c'est ça, parce
alors
que oui,
d'accord.
T'avais l'air de
non,
dire ça. Quoi.
Non, ce que je disais, non, c'est parce que là je voulais déconstruire le discours de Sarkozy puis montrer qu'il se moquait de nous ou qu'il s'appuyait. Ouais. Mais autrement, je suis d'accord que quitte à faire quelque chose, enfin ça dépend quelle tâche. Hein. Parce que par exemple, dans un jardin, moi j'ai pas envie d'être archi productif. Je pense que c'est bien dans un jardin de s'arrêter puis de regarder les carottes, les machins, les citrouilles et tout. Mais si je fais un bouquin, là par exemple, je suis en train de faire un bouquin là, pour la Martinière. Là, c'est clair et net que même si le bouquin ça m'intéresse, parce que c'est moi qui l'ai proposé, ça c'est clair et net que si je peux le faire en 15 jours, je le ferai en 15 jours plutôt qu'en 2 mois. Ah, ça, c'est clair, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pas envie, donc quand je me mets dedans, et puis j'essaye d'aller le plus vite possible.
Voilà, c'est ça, mais quand tu disais, pour le commerce par exemple, si on peut produire plus vite quelque chose, on va le vendre forcément moins cher. Donc la productivité, c'est pas forcément le.
Alors,
c'est pas forcément
produire plus vite,
on va... celui qui travaille, au contraire. Enfin, ça dépend après comment on augmente la productivité, bien sûr, mais c'est peut-être aussi une solution pour travailler moins.
Ah oui, mais d'abord, dans le système actuel, produire plus vite pour le vendre moins cher, ça, alors là, ouais, dans l'économie, hein, c'est quand même une science qui est pas tellement exacte. Et puis de toute façon, parce que si on prend tous les économistes depuis, peut-être Adam Smith finalement, il a peut-être dit des choses qui sont très profondes, et puis on a passé à la trappe tout ce qui était embêtant. C'est que quand il dit qu'il y a une main invisible. Et puis qu'il y a des choses qui vont la main invisible va faire que le marché va s'ordonner. Hein, c'est le gros truc d'Adam Smith. Hein, il dit que si on produit des aiguilles, hein, c'est son histoire avec le type qui va produire une aiguille de A jusqu'à Z, il va être beaucoup moins productif que dans l'usine où on va mettre un ouvrier qui produit le début de l'aiguille, l'autre qui produit la fin de l'aiguille, et puis le troisième, je ne sais pas quoi. Enfin bon, je ne sais pas comment on produit des aiguilles, mais enfin bon, ça, c'est l'histoire du travail à la chaîne, etc. Bon, alors, on dit, Adam Smith, il parle de la main invisible, hein, puisque c'est son expression, et puis tout ça va s'ordonner. Mais ça s'ordonne où ? Ça n'a jamais existé. Et les économistes, ils ont tous fondé leur machin sur une histoire de ce qu'ils appellent le marché libre ou le marché égalitaire, je ne sais plus comment ils appellent ça. Le marché transparent, ça n'a jamais existé, ce genre de truc. Parce que, or, Adam Smith, il disait autre chose. Il disait quand même, et pourtant, Adam Smith, c'est 1780, hein, il disait, le type qui produit son aiguille, tout seul, au moins il a la satisfaction d'avoir accompli son travail jusqu'au bout. Il dit par contre, si vous mettez des types dans un atelier, parce qu'à l'époque c'était quand même pas des grandes usines, mais vous voyez ce que ça peut donner maintenant, hein. Je sais pas si vous avez lu l'établi de Linhart, quand il raconte, quand il met les élastiques, je sais pas si vous vous souvenez, les deux chevaux, comment c'était dans le temps les sièges, et puis Linhart il est mis à l'atelier des élastiques, mais lisez le passage où il explique qu'est-ce que l'intérêt qu'il y a que ça a de mettre des élastiques, puis il avait intérêt à se dépêcher, parce que s'il met pas ses élastiques assez vite, il y a le type qui est avant qui lui dit bah alors tu te grouilles parce que la deux chevaux elle avance sur la chaîne, et puis type qui est après qui dit bah alors elle arrive la deux chevaux parce que... bon bref le Adam Smith disait qu'il faut quand même faire attention parce que si on va vers une rationalisation outrancière du travail, le travail n'aura plus aucun intérêt. Et il y a un type qui s'appelle, beaucoup plus récent qu'Adam Smith parce que lui il est encore vivant là, qui s'appelle Richard Sennett, qui a écrit deux ou trois bouquins extrêmement intéressants dont j'ai plus les titres d'ailleurs, c'est un peu bête mais je m'en souviens plus. C'est chez Hachette, c'est des bouquins excellents, c'est écrit S-E-2-N-E-2-T, et il montre que le travail est complètement dévalorisé. Donc on nous demande de produire, on nous demande d'augmenter notre productivité, mais au détriment de plein de choses. Ah bah oui, et puis ça dépend aussi de ce qu'on produit, parce que Quand on produit énormément, il y a quand même un problème qui va se poser. C'est que, mettons, prenons comme ça, dans l'idéal, parce qu'après tout, on peut faire aussi de l'économie, hein, comme tous les économistes, parce qu'ils n'arrêtent pas. Mettons que ce qui se produit aujourd'hui en 35 heures ou en 40 heures hebdomadaires, enfin, peu importe, mettons que, par un super coup de baguette technologique, hein, pas magique, hein, par un super coup de baguette technologique, dans tous les boulots, il suffit il suffit de 10 heures. Bon, on se retrouve avec un maximum de temps libre. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, il va se poser un vrai problème, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Sans doute qu'on va trouver à l'occuper le temps libre. Bon, c'est pas sûr, parce qu'il faudra quand même qu'on se désintoxique. Mais en plus, on aura produit quoi ? Parce que si les 30 heures qu'on a de RAB, la seule chose qu'on a, comme la seule perspective qu'on a, c'est de consommer exactement les mêmes choses que ce qu'on produisait la semaine d'avant en 35 heures, moi je dis carrément que ça n'a aucun intérêt. Parce que si on produit en 5 heures les mêmes, notamment si on prend la bouffe, si on produit les mêmes merdes, immangeables, les mêmes poisons et tout, moi ça m'intéresse pas que ce soit produit en 5 heures ou en 30 heures, mais c'est carrément pas un problème. La productivité, c'est pas pour moi le problème. Là, le problème, c'est carrément la production, hein, pas la productivité. C'est-à-dire que si c'est pour produire des grosses carottes énormes, pleines de flotte et puis de OGMisées et tout, moi je trouve ça c'est totalement inintéressant. Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas là qu'il y a la révolution. Le micro pour qu'on entende bien ta question.
On n'est pas obligé, c'est pas parce que tu vas faire pousser des carottes plus vite qu'elles sont forcément dégueulasses.
Dans ce système-là, moi, j'attends qu'on me démontre qu'on va faire pousser des carottes plus vite et qu'ils ne seront pas dégueulasses.
Des carottes bio, elles vont pousser plus vite si elles ne se font pas bouffer par des limaces ou des
les carottes bio vont pousser plus vite ?
Non, elles ne vont pas forcément, elles vont pas pousser plus vite.
Ah oui, elles vont pas pousser plus vite, ouais.
Voilà, si elles se font, tu vois, le simple fait qu'elles se fassent pas bouffer par des limaces. C'est améliorer la production, quoi.
Bon, il faut, je pense pas que ce soit le bon exemple. Non, je crois que tu connais pas bien les carottes, non, ça c'est vrai. Moi, je connais pas bien les carottes. Oui. Moi, j'arrête pas de faire des carottes jaunes du Doubs. Tu les connais les carottes jaunes du Doubs? Ah bah oui, bah moi je les rate jamais. Bon, et comment est-ce qu'on fait pour jamais rater ses carottes ? Non mais justement, parce que ça a à voir avec la productivité, c'est pas seulement une anecdote. Moi je vais vous dire comment on fait pour jamais rater ses carottes, parce que, bon je suis pas un roi du maraîchage, hein, ça c'est clair et net, mais au moins les carottes, les gens qui sont autour de moi, enfin les autres personnes qui font leur petit jardin, leur potager et tout, ils disent, oh c'est drôlement difficile les carottes, parce que la graine de carotte elle est toute petite, hein, comme vous savez sans doute, elle est toute petite. Et donc ils font leur semis, comme s'il se met des salades ou des radis. Bon, sauf que les salades ou les radis, ça lève très facilement. Donc la carotte, faut prendre le temps. Bon, faut prendre le temps. Et je regrette, mais semer une graine de carotte, moi, non seulement je fais drôlement attention au semis, je fais un semis dense, mais en plus je recouvre pas ça de terre. Je recouvre ça avec de la tourbe, enfin un truc léger qui va permettre. Donc, parce qu'il faut quand même suffisamment l'enfoncer la carotte, hein, parce que sans ça il y a un problème, etc. Donc là précisément, on peut sérieusement se poser la question de qu'est-ce que c'est que la productivité et puis du temps passé. Enfin bon, après il faudrait qu'on discute de tous les types de production. Mais ce que je veux dire c'est que parfois la productivité, on pourrait avoir l'impression que la productivité, parce qu'elle va nous faire gagner du temps, va nous améliorer notre vie. Moi je dis qu'il y a certaines choses, ça sert à rien les gains de productivité. Ce qui compte, c'est de réfléchir pour dire cette production-là, je n'en veux plus. Il a dit « Ouais, je suis d'accord. Enfin, je fais le micro de...
» Un autre aspect, enfin, qui est un peu effleuré. Un gars, je ne me souviens plus de son nom, cet auteur, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La civilisation des loisirs ». Le raisonnement est le suivant. Grâce à tous les trucs antiques, informatiques, robotiques, etc., pour produire ce dont nous avons besoin, eh bien, il y a besoin de moins travailler... Hein, de se fatiguer les humains pour produire, car grâce à toutes ces machines qu'on invente, les choses se font plus rapidement, moins péniblement et tout. Et le raisonnement de ce gars, c'était de dire, oui, mais donc, on aura besoin de travailler moins longtemps, 40 heures, 35 heures, 30 heures. Mmh. Ah oui, mais les gens, s'ils travaillent moins, que vont-ils faire de leur temps libre ? Et sa préoccupation, ça, c'était dans des journées d'études des centres aux méthodes actives d'éducation qu'on se posait le problème. Eh bien, il faut éduquer dès l'enfance les gens à avoir des loisirs intéressants, vivants, constructifs, à s'occuper, à se créer des choses. Parce qu'un certain nombre de gens, bon, ils ont fait l'école, ils travaillent, mais à part ça, ben, ils vont au bistrot, besoin, ils vont taper les cartes, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ils ne vont pas avoir un tas d'idées de beaucoup de choses qu'ils pourraient faire sur leur temps libre, qui les rendent heureux et vivants.
Alors là, il y a plein de choses. Le premier truc, c'est d'abord sur les machines. Alors, dans La volonté de paresse, là, c'est donc un bouquin donc, que j'ai coécrit avec Pauline Wagner. Enfin, elle a fait un tout petit truc psychanalytique sur le travail. Raoul Van Hegem, vous connaissez peut-être, l'auteur du célèbre traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Et puis, Paul Lafargue, c'était à Paul Lafargue que je voulais en venir, hein. Donc Paul Lafargue qui était le gendre de Marx, et puis qui, dans Le droit à la paresse, il dit exactement ça. Bon, moi je pense que Lafargue, il s'est trompé assez gravement. C'est-à-dire que, enfin du moins, mais cela dit, je n'en veux pas du tout, parce que moi si j'avais écrit comme lui en 1800, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus, 80, je me serais trompé pareil, hein, je ne dis pas, donc c'est facile un siècle après de dire qu'il s'est trompé. Mais je pense que il a pensé que les machines allaient apporter... Bah, ce que vous avez dit, donc 40, 35, 30, et puis pourquoi pas 25, 10 heures de travail hebdomadaire. Toute la question, alors cette question-là, y a plusieurs auteurs qui en ont parlé. C'est Bernard Charbonneau, par exemple, dans Le système et le chaos, ou Jacques Ellul, dans Le système technicien. Le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, l'homme, il devienne maître de la machine. C'est là qu'il y a le problème. Et même si la machine, elle dit au bonhomme, bah, tu sais, 35 heures, c'est bon, et puis demain, ça sera 20, et puis qu'elle réalise réellement les 20 heures, toute la question, c'est de savoir quel est le rapport de l'homme à la machine. Or, moi, je dis que dans la société actuelle, parce que dans l'éthique, là, il y a robotique, informatique, etc. Et moi, j'ajouterais surtout qu'il y a cybernétique. Et puis cybernétique, là, c'est la catastrophe. Et là, pour le coup, on n'est pas sorti de la cybernétique. Alors là, on n'en est pas sorti. Et moi, je pense... Enfin, là, j'arrête pas d'écrire ça dans tout ce que j'écris. Moi, je pense qu'il y a une méga machine globale. Je suis absolument pas paranoïaque et je suis complètement contre la théorie du complot. Donc, je pense que la méga machine, c'est une espèce d'entité qui est pensée dans tous les cerveaux et qui aboutit à ce que les hommes soient des terminaisons des machines. Et y a quand même des trucs très concrets où on le voit. C'est par exemple sur la question de la productivité, la différence entre un homme et une machine, entre un ordinateur et un être humain, c'est évidemment que l'ordinateur, il est beaucoup plus rapide que l'être humain. La différence, évidemment, c'est que l'être humain, a priori, il est censé être capable de penser, alors que l'ordinateur, il pense pas. Mais déjà, quand vous voyez qu'il y a 2 ans, il y a un ordinateur du commerce, qui a battu le champion du monde d'échecs, pendant qu'il y a seulement 10 ans, IBM, il a fallu qu'ils investissent des millions de dollars là, pour faire leur ordinateur qui s'appelait Deep Blue, et puis qui a perdu en plus. Deep Blue, il a perdu. Pendant qu'un ordinateur du commerce, il a battu le champion du monde d'échecs. Bon, donc, c'est vous dire la vitesse. Enfin, ça, c'est qu'un exemple, mais vous pourriez en ajouter tous 50 des exemples de trucs que vous connaissez. Donc, c'est là qu'il y a le nœud du problème. C'est de savoir qui domine. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est... Pas la machine, hein, parce que je suis pas, encore une fois, je suis pas l'adepte de la théorie du complot, et je pense pas non plus que les machines, elles aient une âme ou des âneries comme ça. Mais simplement, les machines, elles ont une logique de développement qui est propre. C'est-à-dire que quand vous avez acheté un frigo, qui est comme si, eh ben, vous allez acheter un frigo qui consomme encore moins d'énergie, et puis qui sera un peu plus grand, et puis qui vous fera des glaçons, et puis le coup d'après, il vous fera encore plus de glaçons, et puis peut-être que ça coulera directement du Coca-Cola, enfin, je sais pas, n'importe quoi. En tout cas, avec les ordinateurs, c'est évident. On vous parle de génération. Avec les centrales nucléaires, vous vous souvenez, Sarkozy et puis Ségolène Royal qui s'étaient trompés. Je crois que là, pour le coup, elle avait raison. Elle s'était trompée sur les sous-marins, mais sur les centrales de 3e génération. Pendant que Sarkozy disait non, c'était la 4e. Bon, manque de bol, c'était la 3e. On parle bien de génération, c'est fou. Alors certes, on peut dire que c'est de l'anthropomorphisme, qu'on calque notre machin, mais c'est pas innocent. Moi, je trouve que c'est pas innocent qu'on dise des centrales de première génération, centrales de 2e génération, centrales de 3e, et puis de 4e, et puis de 5e. C'est pas innocent. C'est là, donc et là, c'est là qu'il y a le vrai truc. C'est de savoir, cybernétique, hein, en grec, hein, ça veut dire gouverner, kubernes. Au départ, c'est gouverner un navire. Bah, moi, je trouve que là, j'aime pas tellement les trucs étymologiques, parce que vous avez remarqué que j'ai pas dit que travail, ça venait de tripalium, qui veut dire instrument de torture. Non, parce que tous les gens qui font des trucs sur le travail, c'est le premier truc qu'ils disent. Moi, ça m'énerve un maximum. Mais cybernétique, je trouve que c'est quand même fou, quoi. Comment cette idéologie, parce que c'est une idéologie, ça se répand. On a l'impression que c'est un truc qui est pensé par des types, que ça n'a aucune conséquence sur la vie quotidienne. Ah bon sang, on est en plein dedans, c'est catastrophique. La cybernétique, c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. Puis deuxième truc que vous avez dit, là, que j'ai noté, qui est drôlement important, c'est que vous avez dit qu'il faudrait commencer en parler aux jeunes. Alors là je peux vous dire que là, de ce côté-là, moi, c'est exactement ce que je fais. Et par exemple, j'ai fait un bouquin, enfin, il n'est pas là, qui s'appelle « Demain le monde », qui a été publié chez La Martinière. Et justement, j'ai fait un truc contre la cybernétique, dans le bouquin. Et je peux vous dire que quand vous, si, je sais pas s'il y en a parmi vous qui savent un peu ce qui se passe en documentaire jeunesse, eh ben si vous voyez la quantité de cochonneries qu'ils produisent, parce que justement pour apprendre à penser aux gamins, ça intéresse personne. Donc ils leur balancent des trucs sur le Moyen-Âge, sur les pyramides et puis sur les dinosaures. Alors ça marche. Et puis des histoires de sorciers, j'ai rien contre Harry Potter, mais au bout d'un certain temps, j'en ai ras-le-bol, quoi. Harry Potter, ça me gonfle. Enfin, les super pouvoirs, l'héroïque fantasy et tout, c'est pas ça qu'apprend à penser. Ça apprend peut-être, ça apprend pas à rêver, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour rêver. Hein, on rêve, c'est tout. Bon, et moi j'en ai ras-le-bol de ça. Je suis quasiment le seul. Enfin, c'est triste. Je dis pas ça du tout pour me vanter, parce que alors là, je trouve que au contraire, c'est extrêmement triste. En tout cas, je suis le seul, même, je peux le dire, à faire des bouquins politiques pour les jeunes. Non pas, comme j'ai expliqué dans le journal là, non pas pour leur dire qu'est-ce qu'il fallait penser, parce que ça, je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus contre-productif. Et puis, je suis totalement anti-stalinien, donc je suis pas du tout pour dire à qui que ce soit qu'est-ce qu'il faut penser, mais simplement donner des éléments pour penser. Et par exemple, sur la question de la cybernétique, ou, par exemple, dans Demain le Monde, moi, il y a un chapitre, ça s'appelle « La vitesse nous fait-elle gagner du temps ?» Ouais, la vitesse nous fait-elle gagner du temps ? Parce que là, on n'en a pas parlé, mais on peut se poser la question, est-ce que la vitesse nous fait gagner du temps ? Par exemple, les armées modernes, elles n'avancent pas plus vite que l'armée de Napoléon. Parce que l'armée de Napoléon, elle faisait à peu près du 4 km/h. Si vous considérez les armées modernes, avec tout le temps qu'il a fallu pour produire les trucs, par exemple, quand les Ricains s'en vont taper sur la gueule des Afghans avec des avions, des bombardiers B2 là, qui coûtent 3 ou 4 milliards de dollars à l'unité, ou des bombardiers furtifs F-17, des chasseurs furtifs F-17, etc. Si vous comptez, alors évidemment, le F-17, il va à 1000 km/h. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Pendant que Napoléon, lui, avec ses chevaux comtois, il avançait réellement à 4 km/h. Mais combien de temps il avait fallu pour produire un cheval comtois ? Rien du tout, quasiment. Enfin, je veux dire qu'il suffit, de toute façon, il y avait des chevaux comtois et il a pu aller en Russie à la vitesse de 4 km/h. Par contre, le temps qu'il a fallu pour produire le F-17, pour dégager le fric qu'il fallait pour produire le F-17 et tout, et là, ce que je raconte, c'est très sérieux, hein. C'est dans des revues de polémologie, etc. Mais ils s'aperçoivent que l'armée de Napoléon, elle avançait à 4 km/h, enfin, peu importe, enfin, à 4 km/h. L'armée de Hitler, elle avançait à 4 km/h et les armées modernes, elles avancent à 4 km/h. Bon, on devrait réfléchir. Donc, moi, j'ai fait l'article que j'ai fait parle pas de ça parce qu'il aurait fallu citer les sources et tout. Mais ça empêche que j'ai fait, je pense que je suis le seul, hélas, hein, parce que j'en tire vraiment aucune gloriole. Je suis le seul à avoir fait un truc dans un bouquin pour la jeunesse française qui s'appelle La vitesse nous fait-elle gagner du temps et où la réponse n'est pas oui. Donc, non, mais c'est grave. Non, mais il y en a un qui rigole là-bas, là, Patrick. Il faut lui mettre un mauvais point, là. Non, c'est pas rigolo du tout. Non, mais je trouve parce que là, la question que vous posez, monsieur, moi, c'est quelque chose c'est une grande souffrance, franchement, de penser à tout ça. C'est une grande souffrance de voir que on leur raconte, mais que des conneries, que des conneries. C'est lamentable. Si vous prenez un bouquin d'histoire du collège et quand vous voyez la place qu'il y a pour le cours, c'est une honte. C'est une honte. C'est impossible d'apprendre quoi que ce soit. Et si on comprend pas l'histoire, si on ne sait pas ce qui s'est passé en 1800 machin, en 1900 machin, et puis en 2001, comment est-ce qu'on fait pour se libérer ? Moi, franchement, là, pour le coup, j'avoue que je n'ai pas la réponse à la question. Parce qu'il me semble que si on veut se libérer en 2009 ou en 2010, ou en tout cas pas trop tard, parce qu'après, ça urge à force, bah, si on veut se libérer, et puis qu'on ne sait pas, par exemple, si on ne sait pas ce que c'est que 1917, on va se faire encore baiser par des espèces de connards de types qui vont nous dire ouais, j'ai tout compris, d'ailleurs c'est marqué là dans le petit bouquin, que faire, tiens, il y a tout là, il y a la solution, ah oui, bah d'accord, bah fais voir, et puis bon, et on va recommencer. Oh, mais c'est désolant. Moi, je trouve ça désolant. C'est drôlement important de parler aux jeunes. Et, bon, mais alors parfois il y a des trucs qui sont positifs. Alors, est-ce que je veux dire un truc positif quand même? Donc, alors, enfin, c'est un tout petit peu positif, hein, parce que vous pouvez exagérer, si c'était très positif, ça se saurait. Alors, voilà ce bouquin-là, c'est moi qui l'ai écrit, ça s'appelle « La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle ». Alors, quand elle a commencé sa collection, alors c'était à Le Sorbier, mais enfin c'est une sous-marque, enfin maintenant c'est La Martinière, mais enfin c'est une sous-marque de La Martinière. Donc La Martinière, c'est une énorme maison d'édition, hein, c'est ceux qu'on fait La Terre vue du ciel et tout, c'est la quatrième maison d'édition française. Hein. La première c'est Hachette, après c'est Editis, et puis après c'est Gallimard, Flammarion, Albin Michel, La Martinière, c'est tout à peu près lié. Bon. Donc, quand elle a commencé sa collection, elle a sorti 8 bouquins. Les 8 bouquins qu'elle a sortis, il y avait 2 bouquins sur les Égyptiens, donc ça raconte la vie quotidienne des enfants. Hein. Et elle avait des trucs sur les Égyptiens, des trucs sur le Moyen-Âge, enfin des trucs où elle était sûre que ça allait cartonner. Puis après, elle en voulait encore 2. Donc il y a une nana qui lui a proposé de faire La vie des écoliers sous Jules Ferry. Et puis, moi, j'ai dit, bon, alors elle dit, ah oui, tiens, finalement, ça va peut-être marcher, ça. Puis moi, j'ai proposé, j'avais jamais écrit de bouquin pour la jeunesse avant, j'ai proposé de faire La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle. Bon, elle s'est dit, allez hop, j'en ai 7 qui vont marcher, on va prendre celui-là. Eh bien, les 2 qui ont marché le mieux, et on est resté en tête de très très loin, c'est La vie des écoliers sous Jules Ferry et La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle. Parce que les profs, parce qu'il y a quand même des profs intelligents, parce que moi je suis vraiment pas contre, enfin je suis vraiment pas contre l'éducation nationale, puis j'en ai ras-le-bol des gens qui tapent à boulet rouge, je trouve ça lamentable. Alors d'accord, arrêtons l'école, et puis alors après on va voir ce que ça va faire. Ça va être, bon, l'école elle est pas idéale aujourd'hui, mais c'est pas en tapant sur l'école qu'on va arranger l'école. Et si on veut aller dans le sens que vous dites, c'est sûrement pas en tapant sur l'école qu'on va y arriver. Il faut s'y prendre autrement. Eh bien, les profs, ils ont été enchantés. Moi, j'ai été invité dans, je ne sais pas, peut-être 10 classes pour parler de ce bouquin-là, ou peut-être 12, enfin, je ne sais plus. Et ce bouquin-là et La vie des écoliers sous Jules Ferry, on est largement en tête des ventes de la collection, même si ce n'est pas énorme. Je crois que j'en suis à 8000 exemplaires, donc vous voyez, ce n'est pas énorme en 8 ans. Mais ça empêche qu'on est largement en tête et loin devant leurs conneries de Moyen-Âge, et puis de pyramides, et puis de Ramsès II, qu'on en a ras-le-bol, parce que des bouquins sur Ramsès II, les pyramides, les dinosaures et tout, mais il y en a pléthore. Et c'est pas avec les dinosaures que vous allez réfléchir au monde actuel. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas avec les dinosaures. Voilà. Excusez-moi, je me suis emporté, mais c'est un sujet tellement, tellement important de considérer que c'est pas nous qui allons changer le monde comme ça. Là, on va pas sortir de l'auberge et puis hop, on va changer le monde. Non, c'est évident que c'est un truc qui prendra encore un certain temps. Il faudrait que ça prenne le moins de temps possible. Mais si on s'adresse pas aux jeunes, il faut s'adresser aux jeunes. C'est essentiel.
Je voulais vous poser 2 questions, peut-être 3 d'ailleurs. La première, c'est que quand vous êtes présenté, vous avez commencé par parler de la maison d'édition autrement, ça m'a bien plu là.
Ah bon ?
Et puis après, on va vers des maisons d'édition beaucoup plus importantes. Alors pourquoi autrement n'a pas publié ce genre de bouquin, par exemple ? C'est plus dans la lignée si c'est vraiment engagé politiquement.
Vous voulez poser des problèmes en même temps,
allez-y,
parce que là je peux répondre en 2 coups de cuir un pot. Ouais. Autrement, alors d'abord les autres bouquins que j'ai faits, hein, c'est des maisons beaucoup plus petites et beaucoup plus engagées politiquement. C'est une qui s'appelle Omnisphère, l'autre qui s'appelle L'Or des fous, ça a disparu.
Vous citez beaucoup la Martinière.
Oui, c'est parce que oui, c'est un hasard. Alors excusez-moi, merci Jean. C'est en réponse aux questions, parce que il n'y a pas l'équivalent chez Autrement. Et puis en fait, Autrement, ce qui est assez étrange, mais enfin ça serait une autre discussion, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'Autrement semble être une maison qui est politiquement engagée, enfin, alors que si vous connaissiez le directeur, vous diriez que c'est une maison qui n'est pas du tout politiquement engagée. C'est un type qui, en 1975, quand il a créé sa maison d'édition, il a surfé sur la vague de 68 avec un certain nombre de choses qui étaient extrêmement positives, hein, ça je nie pas. Moi, il m'a permis de faire une collection qui s'appelle Junior History, où j'ai sorti des bouquins qui effectivement étaient, je pense, allaient dans le sens de ce que vous dites. Hein, donc je crache pas du tout sur Autrement, c'est pas ça. Mais ça empêche qu'aujourd'hui, depuis 2004-2005, il a vraiment des problèmes de fric, quoi, tout simplement.
Bah, il est bouffé par les gros, comme tout
le monde. Il est bouffé par les gros, mais aussi il y a des trucs où lui, il a plus la capacité, la carrure financière, et puis surtout la volonté culturelle et intellectuelle de maintenir le cap. Donc, c'est pour ça qu'il y a repli vers des maisons de plus en plus petites. Moi, les bouquins que je publie, maintenant, c'est chez Syros. Syros, c'est beaucoup plus... Ça dépend de Nathan, mais c'est beaucoup plus petit qu'autrement. Voilà.
Oui, alors, mais bon,
allez-y.
Donc voilà, c'était quand même pour remarquer que la Martinière, c'est quand même une grosse, grosse maison d'édition et qui bouffe les petites comme la plupart.
C'est vrai.
Sinon, je voulais vous demander si vous pensiez que... mais non, parce que j'aimais bien votre discours, pas de décroissance, on ne va pas employer le mot décroissance, mais sur le moins consommé, mais il y a un truc qui n'est pas vraiment en phase. Sinon, est-ce que vous pensez que le vol fait partie de l'économie parallèle ?
Alors, le vol individuel, je pense qu'il compte pas pour grand-chose. Mais si on compte le vol, je pense que le vol, c'est l'essence de l'économie. Je pense que aujourd'hui, c'est le vol qui fait que le monde fonctionne. Si on prend... Bon, là, par exemple, Sarkozy, il paraît qu'il a dit des trucs sur les paradis fiscaux. Il a critiqué Andorre, Monaco, Luxembourg, et puis je sais pas quoi, et puis Liechtenstein. C'est assez rigolo, parce que si vous ôtez les îles Caïmans, Andorre, patati patata, et puis tous les paradis fiscaux, et puis même la Suisse, là, le système, il s'arrête demain matin.
Non, moi, je ne vous parlais pas de ce vol-là. Hein. Non, non, ça, le
vol. Ah, vous parlez des petits vols, des petits vols dont moi j'ai
parlé. Non, non, les petits vols, il y a plein de gens qui volent, et puis il y a une économie parallèle qui est nécessaire.
Ah, non, mais attendez, alors je précise que moi, j'ai jamais volé, même à ce niveau-là. Moi, j'ai juste volé pour survivre, moi. Donc, voilà.
Donc ça, c'est les vols pour voler quand on vole du bois.
Oui, alors donc c'est effectivement
magasins,
c'est une forme d'économie, c'est
ce
que j'ai dit au début.
Le sac d'une mémé ou n'importe.
Non, moi j'ai jamais volé le sac d'une mémé.
J'ai pas dit que vous l'aviez fait. Je dis, est-ce que vous pensez que ce genre de vol fait partie de l'économie parallèle?
Bah en tout cas, moi franchement, je condamne pas d'un point de vue moral, hein, mais je condamne d'un point de vue politique, je condamne le vol des sacs de mémé, et puis aussi le parasitisme. Je trouve que ça a aucun sens. Une fois, il y a 2 ans, on était à un débat là, justement à cause du bouquin là sur l'or des fous là qui s'appelle La volonté de paresse, avec la nana qui a écrit Bonjour paresse. Et Bonjour paresse, elle explique, elle bossait à l'EDF et elle était psychologue. Et elle explique dans son bouquin que c'est vachement facile de gagner du fric sans travailler. Son bouquin, elle l'a vendu à 250 000 exemplaires, tant mieux pour elle. Ça a été traduit dans 18 langues. Et puis, elle commence et puis elle dit, en gros et en détail, elle dit, bon sang, c'est quand même facile de bosser sans se fouler et puis de gagner les sous et puis d'être tranquille. Elle dit, ouais, là, c'est quand même tranquille. Et après, c'était à moi de parler. Et j'ai dit que ce qu'on venait d'entendre, c'était exactement l'essence du capitalisme. C'est-à-dire que c'est basé sur le parasitisme. Et que moi, je suis pour la paresse, mais que pour moi, parce que le bouquin s'appelait La volonté de paresse, donc il fallait parler de la paresse, et puis c'était sur les 7 péchés capitaux, enfin bon, donc il fallait presque mettre le plus possible le mot paresse à toutes les sauces. Donc moi, le premier truc que j'ai commencé à dire, c'est que pour moi, la paresse, c'était pas du tout du parasitisme. C'est à un moment donné, vous arrêtez de travailler, mais vous parasitez pas les autres. Alors elle, forcément, elle avait passé les 12 ans, ou je sais pas combien, qu'elle a bossé à l'EDF, à parasiter. Mais il venait d'où le fric que lui versait tous les mois l'EDF? Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Donc moi, je pense que je ne parle pas du tout d'un point de vue moral, hein, absolument pas. Je me place uniquement d'un point de vue politique. Je pense qu'il faut quand même pas se tromper. Il y a le parasitisme. Sarkozy va le condamner d'un point de vue moral ou d'un point de vue pseudo-économique ou je sais pas trop quoi. Moi, le parasitisme, je trouve que c'est complètement néfaste d'un point de vue politique, puisque c'est ne pas comprendre que ce système-là, il est fondé sur le parasitisme. Et là, je suis pour le coup, c'est un truc, ça fait un moment qu'on le sait. Par exemple, Rosa Luxembourg, elle s'est disputée avec les marxistes orthodoxes à la fin du 19e siècle, parce que dans son bouquin, L'accumulation du capital, qui malheureusement n'est pas réédité, mais enfin qui de toute façon n'est pas facile à lire, c'est exactement ce qu'elle explique. C'est absolument fondamental. Il faut sortir de cette vision du parasitisme. C'est évident que le jour où on partage tous à la surface de la planète, là, avec les 6,8 milliards d'êtres humains, et puis c'est pour ça qu'on intéresse des péchés, parce qu'après, il faudra partager encore plus, on sera 7,5 ou 8 milliards ou 10 milliards, là, c'est vraiment la zone. Bon, il faut qu'on se dépêche de partager, mais le jour où on dit, on arrête de parasiter les pays qu'on est en train d'appauvrir, bah, je peux vous dire qu'il y a une sacrée chute de notre niveau de vie ici. Puis radical, c'est pas possible. La richesse ici, elle s'appuie sur la misère des gens dans les pays dits du tiers-monde. Hein. Ah, vous aviez une troisième question? Allez-y. Non,
éventuellement, parler sur la paresse, mais bon, vous avez fait allusion. Mais surtout, je voulais intervenir sur le fait que dans une société encore comme la nôtre, et c'est pour ça que j'aurais aimé que vous donniez plus de solutions, la notion travail est hyper importante. C'est-à-dire, sans travail, on n'existe pas. On n'existe pas par rapport à la famille, par rapport à une vie sociale, par rapport à un équilibre. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait « ça fait du bien ». Mais oui, quand on a un métier qu'on aime, ça nous fait du bien de l'exercer. Ici, en milieu rural, mais même ailleurs, si on ne travaille pas ou si on pose ses fesses un peu pour lire, on est un peu traité comme des feignants, quoi, quand même. Hein. Donc, il y a une notion de travail qui... En fait, je pense qu'il faudrait complètement que dans la pensée, la notion de travail évolue pour qu'on puisse moins travailler, en effet.
Mais moi, je suis entièrement d'accord. Je crois que tout ce que je raconte depuis 1h20, c'est exactement ça, parce que c'est un problème politique, justement. C'est pas un problème strictement économique, par exemple. C'est pas un problème de stricte productivité, par exemple. C'est pas un problème qui est... C'est vraiment un problème politique. Donc, c'est un problème social, enfin politique au meilleur sens du terme, parce que donc pas du tout politicien, quoi. Il faut qu'on arrive à faire avancer, à faire bouger, à modifier toute la vision qu'on a sur les autres. Les autres, là, nous tous, là, juste dans ce bistrot, les autres qui font autre chose, même ceux qui sont en train de regarder la télé, même ceux qui votent pour Sarkozy. Là, par exemple, j'ai lancé avec quelques camarades, on a lancé un appel à la désobéissance. Nous, on lance dans l'appel à la désobéissance. On ne parle pas uniquement des gens qui sont comme nous. On demande aussi aux policiers, aux magistrats, etc. Moi, je ne crois absolument pas. J'ai jamais cru que c'était uniquement les individus qui étaient plus ou moins qui me ressemblaient plus ou moins, qui ressentaient plus ou moins les mêmes choses ou qui avaient plus ou moins les mêmes évolutions. C'est toute la société. J'ai absolument pas une vision léniniste ou avant-gardiste des choses. Là, ce que vous dites, si je comprends bien, mais je crois que j'ai bien compris, c'est qu'il faut absolument qu'on avance tous vers une autre conception du travail. C'est pas un jour un taré qui va venir à la télé, à la place de Sarkozy, puis qui va dire oh, ça y est, le travail, ça n'a aucune valeur, arrêtez de travailler. C'est pas ça. Ça n'aboutira à rien du tout. Enfin, là, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Donc, c'est un problème. C'est ça qui est compliqué. Parce que si on regarde le problème vraiment au fond, hein, puis qu'on ne se contente pas d'une vision superficielle, on arrive exactement à ce que vous avez dit. Et ça, c'est pas évident à résoudre. Parce que c'est pas évident de se dire, bon sang, faudrait quand même qu'il y ait une grande partie des gens qui changent leur vision sur le travail, et puis ceux qui la changeront pas tout de suite, et bien que ceux qui l'ont déjà changé, ils aident ceux qui n'ont pas changé à la changer, et puis qu'ils voient qu'il y a une autre vie qui est possible. Y a-t-il une vie avant la mort? C'est la question. Et y a-t-il une vie en dehors du travail? C'est à peu près la même question.
Je voudrais parler de l'activité humaine de non-travail. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure au sujet des livres qui vous plaisent à écrire, c'est-à-dire le travail des artistes. Le travail des artistes, à partir du moment où un artiste a une activité, c'est parce qu'il a envie de la faire, c'est parce qu'il aime la faire. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, le travail, quel que soit le nombre d'heures qu'on passe à le faire, n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est la création, c'est même si le résultat n'est pas vendu. Alors bien sûr, il y a des problèmes commerciaux, tous les artistes connaissent, à part quelques artistes, surtout quand ils sont morts, alors là ils valent très cher, mais quand ils sont vivants, c'est dramatique, surtout maintenant. Car on a vu récemment qu'il y a eu beaucoup de grèves, de gens qui ont du travail, mais les premiers touchés dans une crise ou dans une difficulté économique, les tout premiers dont on ne parle jamais, ce sont les artistes. Il y a énormément d'artistes qui sont au RMI, qui ne peuvent plus acheter leur peinture, leur acrylique pour peindre, par exemple, parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qui sont bloqués. Ce qui n'empêche que on arrive, et il y a un certain nombre d'artistes, je pense à Jean, je pense à un sculpteur qui est là, on se démerde comme on peut, mais on fait le métier qu'on veut et qui nous plaît. Et donc, à partir de ce moment-là, ça n'est pas difficile de travailler. C'est autre chose que d'être en usine. Ah. C'est évident.
Ça, je ne vous le fais pas dire, là, parce que je pense que c'est évident. Hein. Oui, non, mais bon, vous avez remarqué sans doute...
Les risques financiers sont énormes.
Hein. Ah oui. Non, bon, vous avez sûrement remarqué qu'à aucun moment j'ai défini ce que c'était que le travail. Et dans le bouquin « Contre le travail », justement, je me suis bien gardé de le définir. Parce que je pense que ce que vous dites, ça illustre pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est évident que là, le mot, c'est le mot travail. L'artiste, il dit je travaille. Moi, si quand j'ai écrit, je sais pas, au travail des enfants ou bon, donc des bouquins politiques, où je travaillais réellement, parce que même je travaillais sérieusement, parce que j'ai vraiment envie que le texte soit bien, que ce soit compréhensible, etc. Donc je travaillais à tout un tas de niveaux. Bon, c'était essentiel. Bon, mais c'est le même mot. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de travailler autrement, quoi. Enfin, de travailler dans une usine, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a simplement une histoire de mots. Et moi, je pense que si j'ai pas défini le travail dans mon bouquin, c'est parce que je pense qu'il faut justement qu'on évite de discuter trop là-dessus. Parce que, si vous voulez, il y a des débats qui partent sur... Oui, mais attendez, c'est quoi travailler? Parce que, et puis pour vous, est-ce que le bénévolat, c'est du travail? Et puis pour vous, est-ce que le travail... Puis est-ce que vous êtes salarié? Ah ben non, moi, je ne suis pas salarié, je paye en droit d'auteur. Oui, mais est-ce que les droits d'auteur, c'est du travail? Quand est-ce que vous avez l'impression de travailler? Non. Là, ce que vous dites, en fait, pour moi, ce que ça prouve, c'est que dans un monde qui est régi par l'économie et par le travail, l'artiste, eh ben, il trouve difficilement sa place. Bon, ce qui n'est pas une découverte, hein. Mais, si, quand vous dites... Alors, quelqu'un...
Je crois qu'il y a un travail, on peut définir un travail productif et un travail artistique.
Alors donc, on peut définir.
Pas de travail productif, vous ne pourrez pas payer le RMI pour les gens.
Ah oui, bien sûr. Donc, la question entre travail artistique et travail productif. Oui, ben justement, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est le même mot. Mais un travail artistique, pourquoi est-ce qu'on dit un travail artistique? Pourquoi est-ce qu'on dit pas, on n'appelle pas ça un zoom la hoop artistique?
C'est ce qu'on veut, quoi, je veux dire, bien sûr.
Oui, mais c'est le mot travail, c'est ça qui est gênant. C'est parce que du coup, on prend le même mot. Mais c'est évident que c'est pas au niveau de la création. Alors après, je ne vais pas dire que l'ouvrier dans son travail il crée pas. Et justement là, tout à l'heure, quand je disais Richard Sennett, là, le sociologue américain, il dit à un moment donné, il dit un truc qui moi je trouve est très intéressant. Il parle de femmes de ménage noires à New York, et il dit que donc femme de ménage, c'est quand même pas considéré comme le métier le plus valorisant et puis le plus créateur. Et il dit que les femmes de ménage, ce qu'elles attendaient, ces femmes de ménage noires, elles attendaient, enfin parce qu'il dit qu'elles sont noires, enfin bon parce que c'est à New York et puis bon parce que enfin c'est ça l'exemple qu'il prend, enfin peu importe qu'elles soient noires ou pas, on s'en fiche dans l'exemple en question. Il dit que ce qu'elles attendaient, c'est une reconnaissance de leur travail. Alors, ce qui fait que on voit bien que si on commence à discuter de ça, c'est extrêmement complexe parce que il faudrait faire rentrer aussi en ligne de compte la reconnaissance. Quelle reconnaissance? Il y a des gens qui comprennent pas comment on peut attendre une reconnaissance d'un travail qui leur semble à eux. Hein, je dis un discours qui peut arriver parfois dans certains débats sur le travail. Quelle reconnaissance on peut attendre d'avoir passé le balai et l'aspirateur? Et pourtant, c'est la reconnaissance qu'elles attendaient, une reconnaissance. Et puis, Sennett, lui, s'appuie sur des interviews, etc. Enfin, son bouquin, c'est passionnant, les bouquins de Sennett. Donc, il y en a un qui s'appelle « Le travail sans qualité ». Voilà. Puis, il y en a un autre qui doit s'appeler « La culture du travail ». Alors, donc, vous voyez qu'il y a l'artiste, et puis, on s'est mis dans la tête... sans doute qu'on a raison, que l'artiste, il faisait un travail qui était créatif, créateur, patati patata, qu'il était positif, qu'il était... bon. Et puis, on se dit, oui, mais celui qui va nettoyer son travail, il n'a pas d'intérêt. Et pourtant, lui, il nous met un peu le nez dans nos contradictions, et puis il nous dit, oui, vous voyez, ces femmes de ménage, elles attendaient une reconnaissance de leur travail. Et là où elles commençaient à faire grève, par exemple, ou à protester, c'est quand elles n'avaient pas de reconnaissance, c'était même pas pour la question de salaire. Donc, si on commence à définir le travail, on s'engage sur des pistes qui sont extrêmement glissantes. Donc, moi, quand je dis que je suis contre le travail, c'est pour ça que j'ai bien pris soin d'expliquer que j'étais contre le travail et que le travail, ça allait avec, dans mon sens, enfin, pour moi, c'est totalement équivalent. Il y a trois mots qui sont totalement équivalents, c'est travail, progrès et économie. Alors bon, c'est évident que le travail artistique, on ne peut pas dire que le travail artistique, il est équivalent à progrès, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, non, Jean, il n'est pas d'accord. Lui, il pense que le travail artistique, c'est du progrès.
Ça peut.
Oui, non, mais bon, disons que le progrès avec un grand P, ce qui fait que l'humanité s'élève, soi-disant, vers des jours meilleurs, etc. Bon,
c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Jean a le sentiment de travailler ce soir? Voilà, j'aurais posé la question.
En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment de travailler. Hein, je vous le dis très clair. J'ai pas le sentiment de travailler. Je pense que quand la question, par exemple, quand on dit qu'on ne veut pas qu'une des façons de sortir du travail, c'est de non agir contre la planète et contre les autres, là, c'est évident que l'artiste, il est dans le non agir dans ce sens-là. Hein, il est dans le non-agir. L'artiste, ce n'est pas parce qu'il va peindre une toile ou qu'il va faire une sculpture qu'il va agir contre les autres êtres humains. Enfin, ça crève les yeux. Donc, moi, je préfère m'en tenir à des trucs comme ça plutôt que de rentrer dans des définitions trop précises. Enfin, dans des définitions, tout simplement, parce que définition, c'est déjà un mot qui est fort, finalement. Ce n'est pas la peine de dire des définitions trop précises. C'est un pléonasme. Parce que je peux vous dire que je crois que le premier débat que j'ai fait sur contre le travail, enfin, je n'en ai pas fait beaucoup, parce que finalement, je ne suis pas tellement invité pour parler du travail. Donc, merci à Jean et compagnie. Vous avez des fois, en face de vous, des idéologues qui vous disent « Ouais, mais là, gna 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 » et tout. D'ailleurs, le contre... Ils vous disent tout un tas de trucs, ils veulent absolument, ils disent « Ouais, mais moi j'ai lu ton bouquin, mais là tu définis pas le travail, donc on sait pas... » Alors c'est quoi ta position de classe, par exemple? Bon, ben là, ça y est, c'est terminé, quoi. Parce que si on commence à vous demander votre position de classe, c'est fou, c'est fini. Même le contre le travail, c'est Omnisphère qui l'a publié, je l'ai envoyé à 3 éditeurs. Enfin, d'abord, j'en ai envoyé à une boîte, à une maison d'édition qui s'appelle l'Insomniaque, qui est une maison d'édition classée dans la typologie sarkozyste à l'ultra-gauche. Bon, l'Insomniaque, ils m'ont dit, ils ont le premier type qui lit le bouquin à l'Insomniaque, qui dit « Ouais, c'est génial, c'est super, il faut absolument qu'on le publie et tout ». Mais lui, c'était pas le chef, parce qu'il y a un chef à l'Insomniaque. Et le gars de l'Insomniaque, alors je ne lis plus là le contrôle travail, parce que j'en ai avec deux pieds. Bon, il y a une demi-page sur une question de valeur d'usage et valeur d'échange. Et donc, quand je suis allé le voir, les gens de l'Insomniaque, il m'a pris la tête, mais littéralement, pendant 2 heures, pour être certain que j'avais compris qu'est-ce que c'était valeur d'usage et valeur d'échange d'après Marx. Moi, je vous dis carrément, ça ne m'intéresse pas. Hein. La valeur d'usage et la valeur d'échange, je sais ce que c'est, en plus, parce qu'il se trouve que j'ai bossé pendant un certain temps pour une encyclopédie, puis justement, j'ai rédigé plein de notices d'économie, donc je sais ce que c'est. Mais déjà, le type qui me prend la tête pendant 2 heures pour savoir si ce que j'ai écrit sur valeur d'usage et valeur d'échange, c'est pas correct d'après sa pensée. Bon, donc évidemment, il n'a pas publié, quoi. Mais je veux dire qu'il y a des fois, avec des bouquins comme ça, puis des pensées qui ne sont pas des pensées, courantes, quoi, ou commerciales, quoi, si on peut dire, hein, genre les pensées de Attali, par exemple. Attali, c'est de la pensée commerciale. Bon, eh ben, à ce moment-là, mais vous pouvez tomber sur des types qui sont graves, quoi, qui vous prennent la tête avec des trucs, mais c'est des petites mouches, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas définir le travail. Parce que je pense que de toute façon, ça nuit absolument pas à mon propos. Parce que je pense que quand on lit le bouquin, tout le monde comprend exactement qu'est-ce que j'entends par le... Chacun se reconnaît, son travail, il se met, lui, sa propre signification du mot travail. Et ça, je pense que c'est drôlement important, en fait, dans l'écriture. Parce que les gens qui écrivent et puis qui veulent toujours définir et puis mettre des trucs et puis tout, et, en fait, en définissant, ils commencent d'abord par se mettre des barrières dans leur bouquin. Et les barrières qu'ils mettent, peut-être à leur corps défendant, mais à mon avis, il y en a certains, c'est plus à leur corps défendant parce qu'ils ont quand même dû réfléchir. Les barrières qu'ils mettent, finalement, et, ils excluent un grand nombre de leurs lecteurs, et puis finalement, on tombe sur le truc où les gens qui vont continuer à lire le bouquin, de toute façon, forcément, qu'ils seront d'accord, parce que tous les présupposés ont été définis d'une telle façon, et quand vous définissez les présupposés d'une telle façon, vous arrivez forcément aux conclusions qui partent des présupposés. Et ça, je peux vous dire, enfin, bon, là, on va pas parler de qu'est-ce que c'est que l'écriture politique ou l'écriture, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment des gens qui mettent des définitions, puis après, c'est tranquille s'ils avancent sur un billard. Moi, justement, j'avance pas sur un billard, parce que dans le bouquin, je commence par pas le définir, et après, je dis que c'est le travail, je me pose la question de savoir si le travail, il est constitutif de l'homme. Et si on regarde ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de l'agriculture, l'apparition de l'agriculture, les villes, l'écriture et tout, moi, je dis carrément que je me demande si le travail, alors là, dans son pire sens, pas le travail créatif, je me demande si le travail, dans son pire sens, il n'est pas constitutif de l'homme. Et c'est bien parce que je me suis posé cette question que j'ai essayé, en cogitant, de m'appuyer sur certaines choses, enfin notamment les taoïstes, hein, comme je le disais, pour... essayer de sortir de ce schéma qui est complètement coincé. Parce que si on se dit qu'on ne peut pas faire autrement que travailler, moi je trouve que c'est catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous des artistes? L'art, c'est pas réservé. Enfin, je ne sais pas si Jean est sûrement pas d'accord. L'art, c'est pas réservé à une élite. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous des artistes? À la place, on est tous des travailleurs. Bon sang, mais pourquoi? Oui.
Non, mais à ce moment-là, pourquoi utiliser le mot travail et pas activité? C'est l'activité, elle peut être artistique, elle peut être professionnelle, elle peut être artisanale,
c'est l'activité humaine, quelle qu'elle soit.
Oui, mais, là, vous ne faites jamais que déplacer le problème, parce que l'activité humaine, si vous peignez un tableau, c'est une certaine activité, mais si vous dites que le type qui travaille chez Matra et qui fabrique des missiles, c'est aussi une activité, moi, à mon avis, ça coince. Parce que moi, je regrette, mais je suis pas. Tous les travaux n'ont pas, d'un point de vue politique, hein, tous les travaux n'ont pas la même valeur. L'artiste, encore une fois, il n'agit pas contre le monde, contre les autres êtres humains, contre la planète. Maintenant, le type qui travaille dans une boîte qui fabrique des mines antipersonnelles, moi, je suis désolé, mais il agit contre la planète. Ça, c'est clair et net.
Mais savez-vous que c'est une curiosité. Mais en tant qu'artiste, la dénomination officielle de ma position est travailleur indépendant.
Ouais.
Travailleur.
Ben justement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez posé la question. Parce qu'on dit aussi le travail de l'artiste. On ne dit pas l'activité de l'artiste.
Oui, enfin, pour moi, le travail est une nécessité de la société. Car, par exemple, les vêtements qu'on porte sur nous, il faut bien que quelqu'un les fasse. La chaise sur laquelle je suis assise, ouais. Eh bien... il faut aussi quelqu'un. Donc, c'est les relations des humains entre eux pour pouvoir vivre sur la planète, manger, etc. Hein, c'est pour moi un peu une définition du travail, mais sans s'exploiter les uns les autres. Bon, maintenant, un petit mot à côté. Tout à l'heure, on parlait de la paresse. Eh bien, la paresse, c'est pas la portée de tout le monde. Être paresseux, ça s'organise. Un paresseux est un gars qui fait très bien son boulot pour le faire correctement, pour pas qu'on lui reproche rien, qu'il le fait assez rapidement, en même temps pour se donner du temps libre tout en ayant fait sa part de travail, hein, être paresseux, ça s'organise. Un petit mot là-dessus encore, ça vient de Taylor, l'Américain qui avait lancé les méthodes de travail à la chaîne dans les usines américaines. Mmh. Quand on le convoquait dans une boîte pour qu'il trouve à améliorer le rendement, hein, des ouvriers, il demandait, il dit, bon, vous devez connaître par les contremaîtres et tout, un ouvrier qui est classé comme feignant, mais qui fait finalement sa part de boulot. Et il allait observer comment l'autre travaillait. Il dit, voilà les méthodes qu'il faut pour bien avancer.
Bon, je ne sais pas si la paresse, ça s'organise, mais en tout cas, la paresse, en tout cas, c'est... Il y a tout un cheminement, en tout cas, pour arriver à la paresse, je pense aussi.
Quand même que le travail, ça permettait la sociabilisation, c'est-à-dire que les gens en travaillant, on rencontre les autres. Et c'est quand même très important, ça. Et je ne sais pas comment on peut diminuer le travail, comment on peut arriver à effectivement diminuer le travail, mais tout de même en gardant le rapport avec les autres autant. Parce que quand on va travailler, on se retrouve avec d'autres. Je trouve que c'est important. Ça me semble très important.
Ah bah, moi aussi, ça me semble très important. Mais il faut bien voir une chose, c'est que comment ça se fait que dans cette société-là, le travail devient un des lieux de sociabilité, un des derniers lieux de sociabilité. C'est ça qui est grave. Parce que regardez, si on prend la télé, parce que là, on n'a pas encore parlé de la télé, hein, et pourtant, la télé, il y a des choses à en dire. Bon, les Français, en moyenne, ils passent 4h30 par jour devant la télé. Les jeunes, c'est absolument catastrophique le temps qu'ils passent devant un écran. Parce que si on ajoute la télé avec Internet, MSN et puis tous ces trucs-là, donc on passe énormément de temps devant un écran. Donc là, le contact qu'on a avec les autres, il est virtuel, hein, comme on dit. Bon, comment ça se fait que dans cette société, on passe que le travail devienne un des derniers lieux de sociabilité ? Là, ça ne veut pas la question. Si vous voulez, on peut très bien dire que il faut pas trop taper sur le travail parce que c'est un des derniers lieux de sociabilité. Ça peut être une chose, mais on peut très bien dire l'inverse. On peut très bien dire c'est extrêmement malheureux qu'un des derniers lieux de sociabilité soit le lieu de travail. Parce que dans le temps, enfin, je suis absolument pas passéiste ni quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Mais dans le temps, il y avait d'autres lieux de sociabilité, et à commencer par la veillée. Encore une fois, je suis pas passéiste, mais je veux dire qu'il y a d'autres lieux de sociabilité possibles. Je pourrais vous raconter tout un tas de trucs. Enfin, je sais pas si. Par exemple, je vais raconter. Je vais essayer de faire très très vite sur une histoire par rapport à la télé et aux jeunes. Hein. J'interviens dans une école et puis ils me demandent de faire un truc sur un sujet d'actualité pour leur montrer qu'il y a de la manipulation à la télé. Donc je choisis de faire Villiers-le-Bel, les émeutes de Villiers-le-Bel. Je vais vite. Hein. Donc c'était dans une classe de 3e. Donc on passe des journaux télévisés, EFR3, EFR2 et puis TF1, de différentes... bon. Et puis il se trouve que, vous savez, c'est la voiture de police qui renverse deux jeunes sur une mini-moto. Les deux jeunes sont tués. Bon. Les jeunes, donc on leur montre ça, et les jeunes, c'est eux qui choisissent, hein, parce qu'il y avait donc la documentaliste, la prof d'histoire, et puis moi, mais c'est les jeunes qui commencent à discuter sur un point très précis, c'est savoir pourquoi est-ce que le pare-brise de la voiture de police, il est étoilé. Alors je vous rappelle vite fait la scène, donc on voit la voiture de police hein, dans le journal, on voit le clignotant en bas à droite qui est déhanché, le clignotant de la voiture de police qui est déhanché et qui continue à clignoter. Le pare-brise, il est étoilé, c'est-à-dire que, hein, il est tout machiné. Les autres vitres ne sont pas du tout abîmées, mais le pare-brise, il est étoilé, mais il tient. Hein. Et puis, on voit la moto qui est à 3 mètres. Et les gamins, ils commencent à se disputer, plus ou moins, pour savoir qui c'est qui a pété le pare-brise. En fait, au bout de 2 minutes ou 3 minutes, ils ne se disputent plus du tout, parce qu'ils sont tous d'accord. C'était dans un petit bled champagnol, donc on n'était pas en banlieue ni quoi que ce soit. Ils sont tous d'accord. C'est... les gamins qui sont descendus de la cité et qui ont pété le pare-brise de la voiture de police. Ils sont tous d'accord, presque tous. Alors, bon, et puis ils discutaient, puis bon, ça finissait par être... Au bout d'un certain temps, j'ai dit, bon, bah, attendez, stop, on va arrêter la discussion. Hein. J'ai dit, on va voter. Qui est-ce qui pense que le pare-brise de la voiture de police est étoilé à cause des gamins? Qui est-ce qui pense que le pare-brise de la voiture de police est étoilé à cause du choc d'un des jeunes sur le pare-brise? On vote, donc tout le monde vote, même les adultes, hein, même les deux profs et puis moi. On arrive au résultat suivant, c'est qu'il y avait 30 personnes à voter. Il y en a 27 qui disent c'est les gamins qui sont descendus de la cité et qui ont pété le pare-brise de la voiture de police. Et on n'était que 3 à soutenir l'opinion inverse. Et vous allez voir en quoi ça a à voir avec le fait de la collectivité et puis les rapports sociaux, etc. Alors, moi, je dis, il y avait deux filles qui avaient voté pareil que moi. Moi, je dis à une des deux filles, bah vas-y, explique pourquoi c'est nous qui avons raison, même si on est que 3 pendant que les autres, ils sont 27. Et j'avais pas discuté avant avec la fille, on s'était pas. Et la fille a dit, bah c'est pas compliqué. Si on s'imagine que les jeunes, ils descendent de la cité avec leur batte de baseball pour casser la voiture de police, ils laissent pas le pare-brise comme ça. Ils l'enfoncent complètement. Ils pètent toutes les vitres de la bagnole. Et puis ce clignotant super arrogant qui est là, quand les journalistes sont arrivés pour la filmer, la bagnole, c'était 2 ou 3 heures après. Ils étaient pas là tout de suite pour voir le choc. Donc le clignotant continuait à. Les jeunes, imaginez-vous que vous êtes avec votre batte de baseball, vous vous écharnez, vous cassez tout. Alors je dis, bon, bah maintenant on revote. Hein, puis voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous êtes chacun de votre poste de télé, ce qui est la condition normale du homo télévisance. Il regarde sa téloche normale. Eh bien, dans cette classe, sur 30 personnes, dont 3 adultes, eh bien, il y en aurait 27 qui auraient pensé que c'est les malfrats de banlieue qui ont cassé le pare-brise de la bagnole. Eh bien, il suffit qu'on soit ensemble et puis qu'on discute. Et d'un seul coup, la thèse, elle s'évapore. Voilà. Et après, je leur ai passé le truc de le journal qui était du surlendemain, où, parce que là, ils avaient vu que le journal du jour. J'aurais passé le journal du surlendemain, où là, d'un seul coup, les journalistes, ils avaient quand même sérieusement changé leur truc, et ils avaient dit qu'effectivement, c'était les. Ben voilà. Donc, pourquoi. Alors, vous allez me dire qu'on est vachement loin du travail et puis de la. Mais pourquoi est-ce que. Même la télé, à la limite, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas la télé en discutant? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir des films en discutant? Pourquoi est-ce que. On est en train de discuter, c'est essentiel de discuter. Et moi, je trouve que le travail, ce n'est pas le meilleur. Bon, on peut discuter au travail, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on ne se ménage pas dans la société, mais sûrement parce qu'il faudrait la changer, des lieux pour discuter? Je trouve ça essentiel.
Moi, je voulais vous demander de préciser la notion de non-agir.
Oui. Alors, le non-agir, selon moi, ou... Bon, selon moi, vous voulez dire? Ou selon les taoïstes? Ouais, bah, je pense que... Il y a quelque chose qui est compliqué dans le discours politique, c'est que après 68 et puis après la chute de l'URSS et bon on était enfermés dans des discours idéologiques. Mais on l'est moins sans doute aujourd'hui, mais bon, c'est pas tellement positif finalement. Mais on était enfermé dans des discours idéologiques. Donc être contre le travail, par exemple, c'est une position qui est typiquement anarchiste, hein, c'est évident. C'est pas une position léniniste, c'est pas une position marxiste même, parce que Marx, il est pas contre le travail, hein. Il n'est même pas contre le travail des enfants, Marx, hein, parce que il dit que de faire travailler les enfants, et si on couple le travail des enfants à l'éducation, ça va faire des bons petits révolutionnaires. Enfin, en tout cas, ça va faire des prolétaires conscients, hein, c'est ça qu'il dit. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il dit, hein, c'est même dans le manifeste, hein, il n'y a même pas besoin de lire Le Capital, mais bon. Alors, moi je pense qu'une des questions politiques essentielles à, disons, du côté où je suis, quoi, enfin, moi je suis anarchiste, je suis contre l'État, je pense qu'une des questions politiques essentielles, c'est qu'on arrive à sortir des discours idéologiques. Or, bon, je vous ai dit tout à l'heure là, que enfin, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça fait 35 ans que j'entends des trucs, donc ça finit par faire une certaine expérience, et moi j'ai pas envie de me laisser enfermer dans des discours idéologiques. Et donc, j'essaye de comprendre, enfin, avec quelques personnes, ou parfois tout seul, enfin, ça dépend, enfin, bon, en tout cas, ou en discutant, là, comme ce soir, ou, bon, j'essaye d'essayer de trouver des issues de secours, ou des voies qui permettent de dépasser la situation. Or, la question du travail, c'est l'aboutissement d'un processus, le non-agir. C'est que je me dis que le travail, c'est... On nous dit qu'il faut travailler pour consommer, on nous dit qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Or, le travail, il aboutit à abîmer la planète et à abîmer nos rapports avec les autres. Enfin, bon, je simplifie, mais enfin, en gros, c'est ça, hein, ça répond. Bon, il aboutit à ça. Donc, pour dépasser ce truc-là, la seule solution, c'est d'arrêter. Puisque soit on continue à s'enfermer dans des discussions idéologiques, et puis on dit oui, mais il faut travailler pour le prolétariat, ou il faut travailler pour la révolution, ou il faut travailler pour je ne sais pas trop quoi, ou pour le pape, enfin n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ou alors on essaye de prendre le problème à rebousse-poil, et dire mais c'est quoi la question ? La question c'est quoi ce qu'on veut en fin de compte ? C'est travailler, pas travailler, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'on veut en fin de compte, c'est arrêter d'agir contre les autres êtres humains, et arrêter d'agir contre la planète. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé au non-agir. Puis alors il se trouve que les taoïstes, ça fait longtemps que j'ai lu et puis que je relis les taoïstes parce que je trouve que c'est une mine de réflexion. Bon, c'est pas toujours facile à lire, mais pour moi c'est une mine, mais ça c'est complètement personnel. Enfin, je veux dire que vous pouvez trouver des mines de réflexion ailleurs, hein, il n'y a pas que les taoïstes. Mais je pense que dans ce qu'il raconte et puis dans la manière de le raconter, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Et puis je me suis dit que en avançant cette idée de non-agir, après avoir expliqué avant que le travail, ça allait avec l'économie, que c'était parce qu'on était en train de travailler comme des abrutis, là, à fond, à consommer à fond, etc., qu'on détruisait la planète. Or, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut arrêter, parce que si on détruit la planète, on va réellement la détruire, on va tous sauter, on va tous mourir et tout. Bon, bah d'accord, ok. Alors... Mais moi, je ne suis pas pour la position de Al Gore, hein, qui est la position qui est en train de triompher, hein, c'est évident, hein, le capitalisme vert. Donc moi, je propose autre chose. Enfin, je ne suis pas tout seul, d'ailleurs. Mais je choisis de proposer autre chose sans dire « Ouais, il n'y a que l'anarchie qui va nous sauver, etc. » Parce que c'est débile. Il y a plein de gens, ils n'ont pas envie de... Puis en plus, on ne peut pas passer à l'anarchie d'un seul coup comme ça. C'est très compliqué de passer à l'anarchisme et puis de se passer de l'État. Donc... Plutôt que de poser le truc en des termes idéologiques et puis dire il n'y a qu'une seule solution, c'est l'anarchisme, et puis il y en a un autre qui va dire il n'y a qu'une seule solution, c'est le trotskisme, puis il y en a un autre qui va dire il n'y a qu'une seule solution, c'est la décroissance, et puis, puis après, ça se termine en foire d'empoigne, et puis c'est des débats qui n'ont pas d'intérêt parce qu'on est resté dans un truc idéologique. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on réfléchisse plutôt au fond des choses ? Et le fond des choses, pour moi, c'est plus la question que le travail finit par détruire nos vies. Et en même temps, il détruit la planète. Bon, quand je dis détruire nos vies, vous allez me dire que je vais peut-être un peu fort, et puis qu'effectivement, il y a du travail auquel on prend plaisir, etc. Mais globalement, le travail, si on continue comme ça, globalement, le travail, oui, il va détruire notre vie, parce qu'il va détruire, il va finir par détruire la planète. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au non-agir. Mais autrement, la différence, enfin, je ne sais pas s'il y a une différence d'ailleurs, mais je pense que la seule différence qu'il y a entre les taoïstes et puis ce que moi je raconte dans le bouquin, c'est que les taoïstes, ils étaient il y a 2500 ans, Donc il y a 2500 ans, bah, c'était pas les mêmes conditions. Et il y a au moins un truc, qui est fondamental, c'est qu'il y a 2500 ans, et puis même il y a encore 200 ans, hein, il y avait au moins une question qui n'était pas comme une épée de Damoclès, là, parce que là on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la question de la destruction de la planète, le réchauffement climatique, patati patata, on va tous crever. Donc ça, on a ça au-dessus. Eux, ils n'avaient pas ça. Donc les seules questions que se posent les taoïstes, c'est uniquement la question de l'emploi de leur vie. c'est l'emploi de leur vie, le propre emploi par chacun de sa propre vie, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement déterminant et qui permet aussi de sortir des discours idéologiques. Parce que là encore, c'est pareil, l'anarchisme, ça veut rien dire. Oui, excusez-moi.
Oui, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai bien l'impression que le problème, c'est quand même le bourrage de crâne et la finalité du travail. Aujourd'hui, j'ai entendu sur RFI, qui n'est pas forcément une mauvaise radio, un reportage sur la crise dans l'industrie automobile. Il y avait un syndicaliste du Nord-Pas-de-Calais qui disait qu'en gros, l'injustice majeure, c'était que les grosses genre Scénic, pas chères, ne sont pas fabriquées dans les lieux où elles sont vendues, et que l'injustice majeure du travailleur du Nord-Pas-de-Calais, c'était qu'il ne puisse pas se payer la Scénic qu'il fabrique. Et je pense qu'après des siècles de lutte ouvrière, c'est désespérant, et qu'on peut parler beaucoup, mais qu'il y a, vraiment un bourrage de crâne, et il y a un travail à l'envers qui se fait... Il y a un courant, un contre-courant, et que ça n'avance pas.
Ah ben, moi, je suis d'accord. Mais ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Là. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est le débourrage de crâne, si on peut dire. Le débourrage de crâne, je ne pense pas qu'il peut se faire par l'opération du Saint-Esprit, parce que si on prend... Bon, par exemple, si on prend là ce tout petit bouquin, là, qu'y a-t-il derrière valeur travail ? Ce qui est fou, c'est que Sarkozy, il a axé à fond sa campagne sur, enfin, il y a la valeur travail, et puis après les trucs, bon, le chômage, tout ce que vous voulez. En tout cas, la valeur travail, c'était vraiment un des axes fondamentaux de sa campagne. Eh ben, lui, ça a été tiré à des millions d'exemplaires. Il a eu des trucs à la télé. Il y a des gens qui ont dit ouais, il a raison, patati patata. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même Denis Clerc dans Alternative économique, il finit par être lui aussi gangréné par la pensée Sarkozy. Et qu'est-ce qu'il y a en face ? Moi, je dis pas du tout qu'il y a que moi. Hein, c'est pas ça. Mais je veux dire que notre puissance de feu. Hein, parce que la propagande, c'est ça, c'est en termes de puissance de feu. Et la puissance de feu de ceux qui sont contre, elle est extrêmement, extrêmement petite. Hein. Alors, d'où l'intérêt d'explorer plein de pistes. Une des pistes, c'est, pour moi, une des pistes fondamentales, c'est de s'adresser à la jeunesse. Une des autres pistes, c'est ce que j'expliquais avec le non-agir, parce que pour moi, c'est fondamental, c'est qu'on essaye de sortir des clivages idéologiques. Parce que si on dit Sarkozy est un con parce que c'est Besancenot qui a raison, on va pas... Bon, peut-être que Besancenot, il aura 15% le prochain coup. Hein. Tant mieux. Il faut mieux que Besancenot ait 15% plutôt que Sarkozy à 55. Donc tout ce qu'on grignotera à Sarkozy puis aux gens qui sont vraiment extrêmement nocifs rapidement pour la planète, c'est toujours ça de gagner. Mais ça empêche que, bon sang, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous porte vers... qui arrive à fédérer les envies qu'on a. Parce que moi, je suis sûr que si on dit à une assemblée que ce qui compte, c'est de non agir pour la planète et qu'il y a encore une possibilité de désobéir au pouvoir. Je pense que, je ne dis pas qu'on recueille l'adhésion des larges masses prolétariennes, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'on aura plus d'écoute que quelqu'un qui va dire la seule solution, camarade, c'est de dire Bakounine et puis d'adhérer à la fédération anarchiste. Ça, je pense. Enfin, je pense que là, on n'a aucune chance. Je suis pas la fédération anarchiste, soit dit en passant. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument qu'on invente autre chose. Et c'est sûr que toute la question sur les ouvriers, par exemple, il y a des trucs, on peut dire tout un tas de trucs monstrueux. Par exemple, quand on pense qu'il y a des syndicats dans la pénitentiaire, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même vachement grave qu'il y ait des gens qui soient syndiqués puis qui soient gardiens de prison. Parce que gardien de prison puis syndiqué, pour moi, c'est complètement antithétique, quoi. Il y a un vrai problème. Donc on peut en trouver plein des trucs où il faudrait s'oxygéner les neurones et puis ouais, c'est un boulot, mais enfin quel boulot, quoi. Enfin, je veux dire, par exemple dans le syndicalisme, à mon avis, dans le syndicalisme, il y a quand même l'idée de se regrouper tous ensemble. Un syndicalisme, se regrouper tous ensemble, mais tous ensemble, espèce humaine, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, le syndicalisme. Eh ben, moi, en tout cas, ça me choque, de même que ça te choque, l'histoire de l'ouvrier qui veut que finalement le truc qui va l'exploiter, ce soit lui-même qui les produit ou que ce soit lui qui puisse l'acheter, le propre produit de son exploitation. C'est assez choquant. Mais on peut trouver plein de trucs choquants. Oui, non, mais je comprends aussi qu'on soit pas choqué, hein.
C'est pas les gardiens de prison. Les gardiens de prison, un flic et tout ça, ce sont des êtres humains comme nous. Hein.
Ah, Jean, c'est pas ce que j'ai voulu dire.
Oui. Oui, ils ont le droit d'être syndiqués. Non, mais d'accord. Mais il y a un truc qui est bizarre entre l'idée. Si, par rapport au bourrage de crâne, c'est-à-dire que où est-ce qu'elle est l'idée ? C'est pour ça qu'il faut s'oxygéner sérieusement les neurones et puis notre mode de pensée politique, parce que si on s'oxygène pas les neurones, on peut trouver des contradictions dans plein d'endroits. Et pour s'oxygéner les neurones, il faut précisément arriver à construire, à trouver qu'est-ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise.
Juste, je ne veux pas faire péter ma science, mais j'ai bien aimé l'intervention par rapport aux artistes. Et pour dire qu'il y a dans le bouquin de Henri Laborie, Éloge de la fuite, il y a un très bel hommage aux artistes. Et il dit que c'est que par l'art et avec les artistes que le monde changera.
Oui, mais le livre s'appelle Éloge de la fuite.
C'est pas la fuite par laquelle à laquelle on pense, c'est la fuite par l'imaginaire.
Oui, je sais, mais je l'ai lu. Non, mais et Henri Laborie, je pense que tu sais que c'est l'inventeur du LSD. Bon, t'as déjà pris du LSD ? Non, bah oui, non, mais juste, non, mais. Bon, bah alors moi je vais répondre, parce que comme j'ai déjà dit que j'avais volé, bon, moi je pense que, moi j'en ai pris du LSD, et moi je pense qu'il y a quand même un problème. Je suis pas du tout rigoriste et tout, et je trouve ça très très bien qu'on prenne du LSD, et c'est très très bien que, ça serait très très bien que tous les êtres humains aient pris au moins une fois du LSD pour voir ce que ça fait. Mais. Moi, j'ai aussi des potes, ils n'ont pas arrêté d'en prendre du LSD. On a commencé à en prendre et ils ont continué à en prendre. C'est pas que le LSD, il y a accoutumance, parce que le LSD, c'est pas comme le shoot, c'est pas comme l'héro, etc. Et là, pour moi, ça pose un problème. Parce que quand il intitule son bouquin « Éloge de la fuite », et encore une fois, je l'ai lu, et même... Bon, je l'ai peut-être pas bien lu, mais ça empêche que pour moi, de même que j'ai dit tout à l'heure que je voulais pas fuir en Amazonie, hein, parce que c'est aussi une fuite, je pense qu'il faut quand même se méfier un petit peu de la fuite. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ceux qui ont quelque chose à dire et qui croient qu'ils ont quelque chose à dire et qui sont convaincus que ce qu'ils ont à dire, ça va œuvrer à rassembler et puis à aller vers notre émancipation, faut pas qu'ils s'échappent par quelques moyens que ce soit. Faut qu'ils essayent d'y rester. Encore une fois, faut mieux être dans le ventre de la bête que être au fin fond de l'Amazonie.
Oui. Juste pour terminer, je sais que là on en a ras le bol, il faut qu'on aille manger, mais c'est pas parce qu'il a inventé le LSD que ce qu'il a écrit après était pas intéressant. Moi, je trouve que par rapport à l'art, ce qu'il a dit,
oui,
c'est vraiment passionnant. Et simplement, j'ai toujours pas compris, mais il faudra que vous nous l'expliquiez un autre jour. J'ai toujours pas compris c'est quoi le truc ?
Non-agir.
Ah oui, le non-agir. Moi, je pense qu'en fait, c'est on est conscient de nos difficultés, de la difficulté de notre esprit et notre état de tristesse. Vous me dites si je me trompe. Et que pour ne pas être manipulé par les gouvernements, par les penseurs qui veulent qu'on pense ce qu'ils pensent, on est obligé, du coup, de ne pas réagir dans le sens qu'ils veulent.
Non, non, c'est trop compliqué ce que vous dites. Non, 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 c'est simplement ne pas agir, ne pas agir contre les autres êtres humains et contre la planète, c'est tout. C'est ça. Après, chacun y met ce qu'il veut derrière. Moi, je suis partisan. Non, 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 non. Je revendique. Mais non, non, justement, ça c'est important. Moi je revendique le fait que ça reste vague. Parce que j'ai pas envie de dire à qui que ce soit parmi vous. Par exemple, il y en a trois qui vont me dire ouais, c'est super, je suis drôlement d'accord avec toi, il faut non agir et tout. Bon, alors moi je veux non agir contre ci, non agir. Non, non, il faut qu'on ait tous la possibilité de mettre ce qu'on veut derrière. Si on dit vive l'anarchie, l'anarchie ça veut dire pas d'État. Bon, qui c'est qui est d'accord avec vive l'anarchie ? Il n'y en a peut-être que deux qui sont d'accord dans cette salle avec vive l'anarchie. Si on dit cessons d'agir contre la planète, par exemple, si on dit ça, ça a des conséquences qui sont largement aussi fortes que de dire à bas l'État. Et en plus, on peut être plus nombreux à se retrouver là-dessus. Parce que moi, je désespère pas de l'espèce humaine. Moi, je pense que j'ai pas dit que tu désespères de l'espèce humaine. Je pense que la plupart des êtres humains, ils ont pas du tout envie de souffrir. Ils ont pas du tout envie d'exploiter leur prochain, etc., etc. Bon, comment ça se fait que si les êtres humains, ils sont comme ça, enfin, je suis peut-être un peu rousseauiste ou je sais pas quoi, mais il y a des trucs que j'aime bien dans Rousseau, ça c'est clair. Comment ça se fait que si les êtres humains, ils sont comme ça, on n'arrête pas de produire des discours politiques qui divisent. Les Tupamaros en Uruguay, ils disaient les mots nous divisent, les actes nous unissent. Bon ben ça c'est vrai. Et ben moi je pense que c'est profondément vrai. Je pense que c'est une des paroles politiques les plus profondes de tout le XXe siècle. Hein, les paroles nous divisent, les mots nous divisent, les actes nous unissent. Moi je pense que c'est franchement une des paroles politiques les plus profondes et puis les plus porteuses de tout le XXe siècle. Et qui c'est qui connaît les Tupamaros ici et qui c'est qui avait entendu ce truc-là avant? Personne. Comment ça se fait? Alors que on est tous au courant des conneries qu'ont pu dire Lénine, Staline, Mao, etc. Les anarchistes aussi d'ailleurs, hein, mais pas que. Et moi j'ai envie qu'on trouve un discours qui soit fondé sur. C'est quoi qu'on cherche? Moi je cherche l'émancipation humaine. Donc, et puis je cherche aussi à préserver la vie sur cette planète parce que je trouve que la vie c'est quelque chose de merveilleux. Et pas seulement la mienne, la vie des autres êtres humains, bien sûr, la vie des animaux, la vie de toutes les espèces. Moi je suis pas comme Le Pen, d'abord ma famille, ensuite mon voisin, et puis les autres ils viennent après. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc. Si c'est ça qui me motive au départ, eh ben j'ai envie de trouver des mots qui correspondent à ce que je pense. Et les mots qui correspondent à ce que je pense, c'est « je ne veux pas agir contre cette planète et je ne veux pas agir contre les autres êtres humains ».